Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poussée du soccer.
Bonsoir, lundi soir, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. C'est le Cannes Football Club. Ce soir, à mes côtés, Réginald, Sofiane et Nilton. Comment ça va, messieurs, avec ce long week-end, cette longue fin de semaine?
Ça va.
Ça va bien, merci. Ça va, on profite. Ça va bien.
La Série A nous a fait un salut à Victoria dans un leur pot.
Ouais.
C'était beau. J'avais oublié que c'était la fête de la reine aujourd'hui.
Messieurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais faire mon petit préambule et puis je vais attaquer avec ma première question. Donc, le CF Montréal qui retourne dans ses travers, deuxième défaite d'affilée après celle de mercredi contre Cincinnati, un cinglant 3-0. On pensait que l'Impact allait réagir et puis que Nini. C'est Reyes, le défenseur new-yorkais, qui ouvrait la marque à la 23e. Réponse 6 minutes plus tard de Joel Waterman pour le CF Montréal. Et c'est Burke qui, d'un non hors-jeu de quelques millimètres, est venu redonner l'avantage aux New York Red Bulls. Et puis, dans une deuxième mi-temps que moi je qualifierais d'insipide, ben finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est peut-être, encore une fois, l'arbitre, en tout cas le corps arbitral, qui peut être mis en cause à la 92e minute sur, je crois, la seule frappe qui allait être cadrée du CF Montréal grâce à Ibrahim Sounoussi. Elle est contrée de la main par Nilis, puis elle passe à ça du but. Mais finalement, on pense que l'arbitre va appeler la VAR, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, corner qui suit, et puis le match va à son terme. Et New York Red Bulls, non seulement continue, lui, sa série d'invincibilité depuis le changement de coach, avec 3 victoires et un match nul, la première étant en US Open Cup. Et non, qui passe en plus de ça devant le CF Montréal au classement. On le verra ça durant la soirée, mais le CF Montréal est tout simplement revenu à l'avant-dernière place, juste devant le rival torontois cette semaine. Donc, je qualifiais cette deuxième mi-temps d'insipide on a vu une équipe. Oh, salut Sid. On a vu une équipe montréalaise finalement un petit peu sans réaction. Et donc j'aimerais vous poser cette première question. On a vu les mêmes erreurs sur les deux buts du CF Montréal et on a vu aussi certainement une corrélation entre les 8-9 premiers matchs de la saison en termes de comportement et pareil sur cette deuxième mi-temps-là. Les mêmes erreurs au tiers de la saison, est-ce que ça commence à bien faire, Reg?
Bah oui, quand même, parce que tu te dis que il travaille à l'entraînement. On a beaucoup blâmé. C'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau coach, c'est des nouveaux joueurs, c'est des nouveaux ci, c'est des nouveaux ça. On n'a pas le temps. Il fait gris, il pleut, il fait trop chaud. J'ai soif. Tu sais, je veux dire, rendu un moment, les excuses, c'est bon là. Genre, c'est il a eu assez de temps pour travailler et je trouve. Tu vois, je sais pas si on pense pas qu'on va trop en parler, mais juste petite parenthèse, tu vois, le match contre Cincinnati, je trouve, il y avait vraiment comme un déjà-vu de début de saison de mecs qui se connaissent pas. Genre des passes à contre-temps, des mauvaises courses, il y a plein de trucs qui allaient pas, comme s'ils se connaissaient pas, en fait. Et c'est ça que je trouve bizarre. Tu te dis, l'équipe est droit à aller en crescendo parce qu'ils sont de plus ensemble, ils sont plus. Et puis non, je sais pas, c'est comme un petit retour en arrière qui peut être dû par la fatigue ou plein de choses, ou même juste l'adversité qui est tout simplement meilleure aussi, comme on en avait parlé. Moi, j'avais quand même dit à un moment, j'ai fait, c'est cool, on va pas s'enflammer. Mais l'adversité, à mon avis, fait beaucoup. C'est qu'ils jouent contre des équipes qui sont à leur portée. Tant mieux, ils ont eu les points. Mais là, les équipes commencent à être plus fortes et on voit est-ce qu'on voit le réel niveau ? Peut-être un peu tôt pour le dire, mais oui, c'est un peu frustrant de voir les mêmes erreurs.
Red, je te reprends juste là-dessus. C'est vrai, parce que New York Red Bulls, on les a battus il y a 2 semaines
aussi,
au Stade Saputo. Nilton, je te renvoie la balle aussi. J'aimerais Red a donné peut-être un début de réponse, la fatigue ou peut-être des joueurs qui sont utilisés de façon constant de 90 minutes. Je vais te donner le flux du match, un petit peu le game flow, pour vraiment, non, mais pour vraiment montrer un petit peu la, quand je parle.
Il va dire en espagnol bientôt.
Non, mais quand... Le fameux mime, il faut que tu rapproches la petite feuille pour voir des traits bleus. Là.
C'est ça, tu vois. Et j'aimerais que tu puisses donner peut-être un début d'explication à ça, parce que j'en parlais un petit peu. Encore à la. Ok, une première mi-temps qui est compliquée, on le voit. Mais une deuxième qui l'est tout au plus ou tout autant.
Ouais, bon, idem, là. Ouais. Mais autant il y a eu. Autant Red a raison qu'on voit des erreurs défensives, si on veut, là. Qui ressemble en début de saison, puis qu'on devrait peut-être les avoir corrigés avec le temps. Mais il faut dire qu'il y a une certaine rotation. Fait que c'est un peu à recommencer. C'est des gars qui jouent des fois hors position. C'est pas parce que Waterman, ça fait quelques matchs qu'il joue à gauche, qu'il est devenu bon à gauche là, non plus. Moi, ce que je trouve, c'est que surtout les matchs à l'extérieur, on a juste un plan A. Là. Puis ce plan-là ne fonctionne pas 25 fois, puis on va l'essayer une 26e fois en se disant ben, le 26e ballon qu'on va envoyer au fort, lui, il va le contrôler. Tu sais. Non, c'est ça commence à devenir un réflexe. Là. Les gars sont loin de la défense. Ils balancent beaucoup de ballons. La fameuse première erreur, on avait vu déjà quelques signes avant où les défenseurs centraux se plaignaient qu'il n'y avait pas d'option. Oh. On a vraiment l'autoroute long ballon là, un peu trop rapidement qui fait en sorte qu'on construit absolument rien. Tu sais, le game flow que tu montres, il n'y a pas de phase où il y a une possession de balles établie dans le dernier tiers puis on essaye de créer quelque chose. À chaque fois, là, c'est des petits à-coups à gauche, à droite là, puis on espère produire quelque chose. Éventuellement, il va y avoir de gros problèmes à régler. Il va falloir se pencher sur le dernier tiers, là, le volet offensif. Mais est-ce que l'Osada a ce qu'il faut pour construire? Ça commence à devenir un enjeu.
Sauf, je rajoute encore une petite couche. Je montre juste les notes, pas pour les montrer, mais justement, on voit du côté de Red Bulls quasiment que du vert, du côté de Montréal que du orange, c'est-à-dire des notes qui sont situées plus basses que 7. Est-ce que ça démontre aussi, je parlais à la fois du côté technique, on l'a vu hein, techniquement c'était très très compliqué, même en termes de pourcentage de passes réussies, je vais le montrer tout à l'heure, mais en termes de comportement, est-ce que t'as senti une révolte lors de cette seconde mi-temps par exemple?
Petite parenthèse, il va falloir qu'ils corrigent leur algorithme, ça n'a aucun sens le Waterman dans le vert, aucun sens.
Mais encore une fois, c'était pas sur les notes, mais c'était que globalement, finalement, tout le CF Montréal au complet se situe dans un non-match. Comment tu l'expliques, Sof?
Un non-match. C'est un non-match, ça finit 4-0 quoi, pour le Red Bulls. C'est ça que je me dis aussi.
On n'en est pas très très loin. Hein.
Ouais, mais qu'ils le mettent alors. Qu'ils mettent le 4-0, les Red Bulls. Parce qu'à un moment donné, moi, je me posais la question pendant la séquence victorieuse. Je me disais, de Montréal, je me dis, je doutais plus de la victoire que de la façon que, genre, ok, ils ont gagné, mais genre, ok, je suis pas convaincu, je suis encore en mode tiki-taka, ok, je m'habitue à l'Osada, c'est jeu direct, on voit ce qu'il fait, etc. Ok, là, ils perdent contre Cincinnati et contre les Red Bulls, je dis, ouais, c'est pas illogique, surtout que déjà les Red Bulls, c'est pas la même équipe, là, depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. Donc, ils ont fait 4 taureaux, là, autour de la surface de Montréal, genre, de façon magnifique, on aurait dit le Barça, là, mais. Cincinnati, on le voyait un peu venir, mais comme a dit Rach par rapport à la méfiance contre Cincinnati ou le manque d'automatisme. Mais tu sais, plus on en voit, plus on revient à la même chose. Tu sais, genre, les joueurs sont peut-être pas aussi forts qu'on s'attendait pour certains. Il y a un manque de talent. Et le manque de talent, c'est pas nécessairement comparé à l'an dernier, c'est comparé à la compétition. C'est ça le truc que moi j'essaie de toujours mettre en tête, ils jouent contre qui exactement? Et comment tu vas survivre contre ces équipes-là? Est-ce que tu es équipé pour, si tu bétonnes pendant 95 minutes à chaque fois, est-ce que tu peux le faire? Donc à un moment tu te rattrapes, puis on dit tout le temps c'est la faute à pas de chance, c'est la faute aux blessures, c'est la faute au kiné, c'est la faute à la bouffe, au déplacement, à un moment genre, c'est peut-être juste le fait, c'est la réalité, là. It is what it is. Donc, et je pense, je reviens au même truc, c'est que l'équipe, en termes de talent, elle est plus faible que d'autres, de très loin, même qui sont d'autres équipes que Montréal a battu. Mais c'est juste que, tu sais, apathie ou Est-ce qu'on devrait plutôt dire que les remontadas et les matchs à la maison, c'était une exception? Moi, je me pose la question, est-ce que c'est ça l'exception? Ou est-ce que c'est juste une équipe moyenne, comme toutes les équipes MLS, qui ont deux victoires, trois défaites, quatre victoires, six défaites? Peut-être c'est ça qui va arriver. Puis ils vont se battre pour les playoffs, puis peut-être à DCGD, ils se font éliminer ou pas. Puis on dit, oh, on a failli arriver, oh, on n'est pas allé, il fallait chercher ce gars-là. Honnêtement, je ne sais pas comment ça allait cette équipe. Moi, personnellement, je la vois match par match. Je ne vois aucune tendance, mis à part le football de l'Osada qu'on voit, un jeu plus direct. Mais il manque des outils, comme dit Nilton, que ils ne sont pas assez outillés pour faire certaines choses. Mais c'est un manque flagrant de talent, je trouve, à des postes importants.
Sid, je termine avec toi là-dessus. Je vais te partager une stat sur justement les passes, la précision des passes sur ce match-là. Parce que j'en parlais, c'est vrai que la pelouse était très détrempée, il a beaucoup plu. Mais on voit pareil un pourcentage de passes qui est vraiment de passes réussies, hein, j'entends, très très faible. Est-ce que finalement, quand on voit ça, ben, on se dit que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à espérer quand techniquement on est complètement à côté?
Non, pas vraiment, parce que Red Bull a le même pourcentage de passes réussies, c'est 67 à 69, donc je pense pas que tu vas déduire forcément là où tu vas. Mais pour revenir à ce que tu parlais sur les mêmes erreurs, moi je ne suis pas d'accord, c'est pas les mêmes erreurs. Ce qu'on voit depuis un peu plus récemment, c'est que Montréal donne vraiment le bâton pour se faire battre. En début d'année, plus souvent, il y avait une équipe qui était supérieure dans le jeu. On était capable de marquer contre Montréal, d'une part, dans les transitions rapides. C'était véritablement le gros point faible. On s'en souvient, c'était le travail d'Anzela Ryan, par exemple, ou même contre Philadelphie, même si c'était une défaite au final. D'ailleurs, c'est la seule remontada. Hein, parce que quand tu as dit les remontadas, c'est la seule fois qu'ils ont réussi à revenir. Mais ce qui est vraiment particulier, c'est que ça, tu avais corrigé ça durant la période qui allait bien du côté CF Montréal. Tu avais su attaquer sans te faire contre-attaquer. Donc là, ce que Cincinnati a fait mercredi dernier ou mardi dernier, c'est vraiment oui, démontrer que voilà, c'est ça une très bonne équipe MLS. Parce que dans la séquence des six matchs, bon, je veux dire, c'est pas non plus d'adversaire très fort, mais là, tu as une équipe qui a installé son jeu. Et même à ça, les buts que tu as pris, c'est les buts que tu lui as donnés. C'est vraiment sur les erreurs, vraiment, la passe de Campbell plein axe, la passe de Waterman plein axe aussi, un peu différemment. On parle de but contre son camp, etc. Donc, là, et ça, je pense que ce que tu avais fait un très bon travail dans la série de six matchs sans défaite, c'était minimiser les erreurs. On avait un Jonathan Sirois qui n'était même pas meilleur, techniquement était même inférieur d'un point de vue purement performance, sauf que ben, les chances de qualité auxquelles il faisait face étaient vraiment très faibles. Donc là, on a trouvé on se fait battre du côté Montréal, mais de façon différente. Alors, maintenant, il y a tous les facteurs qu'a cité Reg, mais je pense que ce qu'on nommait aussi, et merci Dan Litton d'en avoir parlé, c'est que en fait, cette équipe-là, son équilibre est très fragile. Waterman, par exemple, à droite, au début, lorsqu'il revient dans le jeu, c'est un certain type de joueur. Waterman à gauche, c'était pas son plus. C'était oui, offensivement, il est plus visible parce qu'il est plus haut qu'un Corbeau et qu'un Camacho. Mais c'était compliqué aussi pour lui. Et on l'avait un petit peu oublié. Et puis lui, il est suspendu, il fait pas la semaine torontoise. Puis là, tout d'un coup, il revient. T'es comme, ah oui, c'est vrai que c'est compliqué pour Waterman. Donc, je pense que là, du côté de l'Osada, il s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui sont... C'est très... OK, toi, Campbell, tu es capable de performer bien à droite. Mais si je te mets au centre, c'est compliqué. Toi, en fait, tu es bon juste à gauche. Et si je te mets ailleurs, c'est un peu compliqué. Au fait, toi, tu es bon quand on est juste deux attaquants, un 10. Non, toi, pour que tu performes, il faut qu'il y ait vraiment deux 10, un attaquant. Et ça, il y a vraiment... L'équilibre est très, très, très fragile. Ça, pour le coup, il y a des joueurs que même sur 15 minutes, ça peut être intéressant. Et après, sur 45, c'est vraiment plus ça. Je pense à la Palainen attaquant. On a tous un petit peu commencé à divertir cette idée. Puis là, on se rend compte que soit on est prêt à manger notre pain sec pendant longtemps, ou soit on oublie tout de suite. Et c'est là où, je rejoins Nilton. C'est pas forcément la. C'est l'équipe, elle est très similaire, parce que le Tala, finalement, fait très peu de transitions, mais des joueurs qui ne performent qu'à un seul poste. Herrera est le meilleur exemple en passant. Hein. Herrera, défenseur droit. On s'est tous demandé, mais pourquoi c'est qui lui, Real Salt Lake, tu peux nous remonter les photos un petit peu, sauf, mais et Herrera latéral droit, alors là c'est comme pardon piston droit excentré droit, c'est un autre joueur. Donc moi je pense pas que ce soit, voilà, c'est pas les mêmes erreurs. Ça veut pas dire que c'est des erreurs qui sont pas compliquées enfin qui sont pas importantes à changer, mais c'est pas la même façon. En tout cas, vraiment je suis sur cette idée là.
C'est intéressant et on va voir si tes propos sont corroborés par l'analyse du but de Reg, parce que Reg va analyser finalement le deuxième but encaissé du CF Montréal. Je le dis, hein, ça s'est joué à peut-être 5 mm, une paire de crampons. Mais c'est surtout, je pense, la ligne défensive, ou en tout cas la capacité à défendre que Reg va analyser, et notamment le placement des trois défenseurs centraux.
Donc je vais pas, comme tu as bien dit Julien, donc analyser le deuxième but des Red Bulls, le but de Burke. Alors je roule la vidéo, évidemment. Oh my God. Je vais mettre la merde. Hop. Et voilà. Hop, voilà. Hop, donc un beau petit jeu à une touche de balle ici. Tir bloqué. Et là, Caceres et le temps. Il dribble ses rois. Waterman qui essaye, malheureusement. Il prend le but quand même. Hop. Et là, on va montrer l'action. Telle frappe bloquée. Hop, petite passe. C'est drôle qu'il ait parlé du Barça, sauf. J'ai un petit clin d'œil pour toi aujourd'hui. Je pense que tu vas aimer ça. Tu vas être un petit truc. Si, un petit truc pas mal. Si. Alors, Julien a vu juste. Je pense que c'est vraiment le placement défensif que je trouve quand même assez défaillant depuis quelques matchs. Que la défense du CF, les trois derrière, reculent beaucoup. Que les numéros 6, que ça soit Wanyama, que ça soit Chouanière, je trouve qu'il y a quand même un écart entre donc la ligne défensive et les numéros 6. Dans cette action, il faut quand même mettre de l'avant l'adversaire qui a fait une très belle action. Donc on voit Fernandez ici qui est en mouvement depuis pendant toute l'action, il est en mouvement, puis c'est lui qui crée quand même l'action avec ses déplacements. Il tourne tout autour de Wanyama, vous allez le voir, avec Yearwood. Donc, c'est vraiment une action à une touche de balle qui fait des différences. Donc, il reçoit le ballon, le donne à Yearwood. Il continue son mouvement. Du coup, Yearwood lui remet en une seule touche de balle. Donc, ils ont éliminé Wanyama. Et c'est ça que je disais, c'est vraiment ce côté d'avoir cet espace entre les numéros 6 et les défenseurs. Est-ce que les défenseurs sont trop bas? Est-ce que les numéros 6 sont trop hauts? Il y a un trop gros écart. Donc, du coup, Campbell est obligé de complètement dézoner pour pouvoir se rapprocher de Yearwood. À ce niveau-là, Herrera pourrait prendre sa place, mais il ne l'a pas fait à ce moment-là. Mais à la rigueur, ce n'est pas très grave vu que Yearwood a donné le ballon à Fernandez. Donc là, on se retrouve, Yearwood a donné le ballon à, j'ai oublié son nom, pardon, je ne l'ai pas noté, il est où
là? C'est Burke là?
Non, c'est pas Burke, c'est celui qui prend la frappe, j'ai oublié son nom.
C'est celui qui prend la frappe insolente là, qui retue tout le jeu. Je dis, mais pourquoi il a pris la frappe lui?
C'est Carmona, pardon. C'est Carmona qui fait une frappe du gauche, et là on voit déjà que la défense et pas du tout aligné. Que ça soit Campbell, que ça soit Camacho, que ça soit Waterman, que ça soit Herrera, ils sont chacun à un niveau qui est complètement différent. OK? Donc déjà au niveau du placement, ça c'est défaillant. Au niveau aussi du côté spectateur, c'est ce qu'on retrouve un petit peu au début de la saison. On retrouve un peu une équipe qui est plus à réaction que dans l'anticipation. Caceres qui est le joueur clé après Fernandez dans cette action-là. Là, vous le voyez, il est au niveau de Bryce Duke. Et ben, à partir du moment que la frappe de Carmona est bloquée par Waterman et qu'elle va se retrouver entre Camacho et puis Yearwood, et ben, Caceres, il est bien en avance sur Bryce Duke qui est complètement spectateur sur cette action-là. Et là, comme je vous dis, il se retrouve en 4-5 pas. Il est bien devant Duke qui attend. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il attend, mais du coup, il est complètement en retard sur l'action. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils sont spectateurs, ils ont égalisé il n'y a pas trop longtemps, tu te dis « Ah, ben c'est bon, ils vont reprendre un peu du poil de la bête. » Ben non, ils se retrouvent, ils retombent un petit peu dans des travers, dans une équipe qui est un peu dans de l'attente, qui ne crée pas grand-chose, qui est un peu nerveuse, alors qu'elle sort quand même d'une série qui était assez positive. Certes, entre-temps, il y a eu la gifle à Cincinnati, mais on retrouve encore un peu, c'est là que je trouve, moi, on retrouve les mêmes, un petit peu les mêmes erreurs d'inattention. Donc là, Caceres, il reçoit le ballon tranquillement. Et puis là, il a tellement de temps, le temps d'être devant. Puis c'est pour ça, c'est là le petit clin d'œil à Sof. Je pense qu'on était ensemble, qu'on a vu ce match-là. Évidemment, ça m'a fait penser à cette action-là de Ronnie qui était devant la défense. Sauf que là, il y avait énormément de talent. Et je pense que Carvalho, c'était un peu différent. Mais tu vois, c'était vraiment ce côté un peu de la défense qui attend, pas alignée et qui attend, qui défend pas en avançant. Et bah, en fait, c'est un peu ça. Comme il dit Sid, je suis obligé de reprendre son expression. C'est vrai que le CF, ils prennent le bâton pour se faire battre dans énormément de situations et dans la majorité des situations où ils se prennent un but. Et puis là, bah, t'as Waterman qui lève la main, mais c'est lui qui garde Burke en jeu, en fait. Donc là, on a une très bonne image, on le voit très bien. C'est pas normal, en fait, d'avoir une défense qui est alignée comme ça. Genre, je veux dire, à un niveau professionnel, c'est quoi, en fait? C'est, on dirait, une chorégraphie où ils sont comme chacun décalés, ils sont à leur niveau. Je trouve que c'est pas, puis je pense que c'est ça le problème, c'est les fondamentaux. Niveau défensif, ben, le CF il n'y arrive pas. Ça peut être Waterman aussi qui gère beaucoup moins bien à gauche que quand il était à droite. Campbell, je le trouve très très lourdeau, pas très mobile, il prend des décisions un peu trop instinctives qui sont pas toujours très bonnes. Camacho qui veut en faire beaucoup plus. Donc en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est ça, ils défendent pas ensemble, les trois ne défendent pas ensemble. T'as vraiment l'impression que t'as chacun prend une décision à un moment différent pour pouvoir faire la différence au niveau de la défense plutôt que de défendre. Puis c'est là que je m'interroge sur le côté de bah, ils sont à l'entraînement, c'est plutôt les mêmes, il y a une rotation, là il y a Campbell qui est revenu, mais on avait quand même les mêmes gars. Est-ce que c'est justement l'ajout de Campbell qui a un petit peu mis le petit grain de sable dans l'engrenage? Je ne sais pas, parce qu'avec Corbeau, Waterman, Camacho, on avait quelque chose de régulier qui allait plus ou moins bien. Et puis
là, c'est là où la frustration. C'est là la frustration. C'est comme tu l'as dit, c'est que c'est Waterman qui couvre de 2 mètres derrière. Waterman joue avec Camacho depuis peut-être c'est la troisième année.
Donc là, tu te dis, c'est bizarre, c'est des erreurs. Tu te dis, bah non, vous connaissez les gars. Normalement, la ligne défensive, c'est quelque chose que je sais pas. Donc,
vous connaissez, oui, ils se connaissent, mais Waterman a toujours joué à droite, joué à gauche uniquement pour remplacer Miller. Et ce qui s'est passé, quelque chose qui s'est passé, c'est que t'as l'échange avec Miller, Duke, de l'argent et Lassiter, puis on est très sur le moment, sur qui a gagné, est-ce que c'est 1,3 million de gamme, c'est trop, est-ce que ça veut dire patati patata. Puis on oublie quand même qu'on a fait un choix très fort en échangeant ton défenseur gauche de métier, alors que tu ne veux pas donner le poste à Torkelsen, ça veut dire que dans ton effectif, là, tu as choisi Waterman à gauche. Waterman a fait un ou deux matchs qui étaient assez corrects suite à l'échange, et on s'est dit, OK, problème réglé. Sauf que non, ce qu'on se rend compte, c'est que le problème est très loin d'être réglé à gauche. Et je ne sais pas si tu l'avais vu sur ton but, ben sûrement, comme tu as fait l'analyse. Moi, j'aimerais vous montrer quelque chose, parce que surtout ce qui, moi, m'a beaucoup dérangé sur les derniers matchs, qui m'a dérangé sur la première mi-temps face à Toronto, au championnat canadien. Ce qui m'a dérangé contre Cincinnati, ce qui m'a dérangé contre New York Red Bull, c'est cette équipe-là, défensivement, quand je dis qu'elle donne le bâton pour se faire battre, c'est aussi parce qu'elle subit quelque chose. Et dès qu'elle subit un pressing haut, poids. Alors qu'avant, avec Wilfried Nancy, c'était vraiment, on jouait de ça en 2 secondes, venez nous presser, tac, 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 2 triangles, on est parti. Là, je pense qu'il y a une petite... on ne sait pas comment gérer ça. Donc, c'est vraiment fascinant. Et le bâton pour se faire battre, c'est avant ça pour moi, Reggie. Je vais te montrer ça sur la séquence. Si ça va bien s'ouvrir, cet onglet qui devrait... Voilà. Ok, donc juste ça, Waterman, qu'est-ce qu'il fait du ballon?
Au classement des frappes,
Juste avant le but.
Il est un peu brouillon avec le ballon dans cette première mi-temps.
Ouais, merci.
Regarde. Oh, tiens, oh allez, là, je vous le donne. Oh c'est parti. Là.
Avec son pied gauche en plus.
Non mais genre voilà.
Non mais
c'est 25 fois comme ça par match.
Paolo Waterman.
Avec son pied gauche en plus, c'est ça qui est drôle.
Le mec, c'est juste ça le match. C'est juste ça tout le match.
Je vais quand même le faire avec mon pied gauche. Je suis droitier, mais j'ai le temps. Hein. Mais je vais tester mon pied gauche aujourd'hui là tout de suite.
C'est un résumé le match. Tu sais le résumé qu'on on aurait pu juste montrer ça. Les actions Montréal, c'est ça.
C'est qu'est-ce que c'est? Non, véritablement, qu'est-ce que c'est?
Donc, ça peut-tu être très très long, t'as gardé cette séquence-là d'Apple TV, hein? T'as fait de la première séquence, pause, recul de 10, c'est... je suis prêt pour demain.
Donc, non, pour le coup, il y a quelque chose qui est vraiment à corriger sur ça, sur les sorties de balles.
Mais c'est des conseils ou c'est manque d'options?
Écoute, moi, je pense qu'il y a un mélange des deux. Ouais, parce que... j'ai quand même remarqué qu'au cours des derniers matchs, ça jouait quand même un petit peu plus au sol. Quand même, il y a quand même un désir de se sortir proprement. Tout le monde me parle de l'Osada Ball. On peut pas parler de consigne non plus à ce point-là et de jouer comme dans les airs. L'Osada Ball.
Pas l'Osada, pas l'Osada.
On essaie de créer des tendances, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, on s'en fout.
Je pense que ça se joue c'est aussi, comme l'a dit Sid, ça se joue aussi à la capacité de l'adversaire de juste mettre une pression. Parce que Toronto était venu un petit peu en vacances.
Pas la première mi-temps.
Excuse-moi, je parle au stade Saputo, moi.
Ouais, mais oui, voilà. Ça, mais la première mi-temps du championnat canadien, oui. parce que tu sais, on l'oublie un petit peu. Tu sais,
c'était épeurant, ça.
Ah, merci. Oui, parce que j'en connais bien. Parce que.
C'était épeurant, ça.
Non, mais
on était en mode couple, là.
La première mi-temps a fini. Tu sais, la fameuse frappe où je me souviens plus du nom, là, le marchand de vitesse dans le dos de Camacho, ça finit en but. Je sais pas si parle encore de l'Osada Ball.
Non, mais c'est parce que c'est comme si. J'ai l'impression que. Pouf, il s'est rien passé. Toronto, ils ont pris 5-0, 5-0. Non.
Mais c'est la capacité à l'équipe adverse de mettre une pression. Et effectivement, on l'a vu sur tous les matchs. Dès qu'il y a une pression.
Ouais, c'est de l'ajustement. Les Red Bulls sont ajustés. Tout le monde s'ajuste. C'est sur l'action de Waterman, quoi. Il centre, il dégage le ballon. Je dis, quand je vois les milieux de terrain, personne n'est disponible pour l'aider. Il n'y a rien. Et tu veux qu'il fasse quoi? Il dégage. New York Labouze, il le voit venir. Au fort, c'est pas Drogba. Même Drogba, de version 2004, jamais il peut suivre contre les Rabouze pendant 90 minutes, comme ça. Il ne va pas prendre le ballon, on peut faire des sprints de 100 mètres, de 40 mètres pendant tout le match. C'est un moment, kudos à les Rabouze, bravo sur ce coup-là. Ils ont eu l'échiquier. Contre Cincinnati, Montréal aurait pu faire plus de mal. Cincinnati, il voulait se faire prendre. Cincinnati était prêt à prendre des buts. Là.
Non, comment ils jouent? C'est comme ça, ils jouent.
Exactement, mais même contre Montréal. Je dis, ils veulent se faire marquer. Allez-y, mais faites 3-1, 3-2, c'est faisable. 3-0, c'était fini, mais genre, tu sais, 2-1, tu sais. Mais le truc, c'est que, puis on revient à la philosophie de la MLS, investir dans un style défensif ou des joueurs très défensifs, à gogo, à un moment, il y a une limite. Il y a un plafond, il y a une limite sur ton retour sur investissement. Donc, soit tu joues au ballon, ou soit tu as des joueurs offensifs qui font la différence régulièrement. Tu choisis le modèle Nancy ou le modèle Piatti genre 2013, 14, 15, 16.
Sofiane,
oui, monsieur.
T'es-tu en train de dire qu'on joue avec un modèle défensif? C'est l'intention défensive qu'on est en...
Je n'ai pas si c'est une intention défensive, mais c'est une coquille défensive en tout cas. Je ne sais pas s'ils font exprès, mais regarde, Cédouk n'est pas là. C'est une équipe défensive. Cédouk, la star ne vient pas là. C'est une catastrophe, cette équipe-là, en termes d'offense. D'offensive.
Ouais, je pense que c'est plus une conséquence de ne pas avoir le ballon qu'il faut défendre. C'est pas une intention de jeu.
Bon, moi, ils me donnent pas l'impression. Moi, quand ils ont le ballon, moi, pour moi, je le vois, c'est le réflexe entier qu'ils ont encore. C'est pas de. Tu sais, Doug, ça joue au ballon. Hein, Wanyama, Chouanière, ils font tiki-taka un peu. Je me sens bien dans ce style-là, c'est correct. J'ai pas l'impression.
Elle n'est pas configurée vraiment pour ça. Et c'est là où véritablement. Je trouve que je pensais qu'ils avaient fait la mutation et je suis pas d'accord avec les mêmes erreurs, mais peut-être genre comme les mêmes symptômes. Je pensais qu'ils avaient véritablement opéré la mutation, mais au-delà des résultats purs hein, de la période de 6 victoires, ce qui m'a surpris, c'est que on est encore revenu à cette espèce de d'hésitation, de toujours de manque de rythme et le fait que on est incapable véritablement de. Parce que le jeu de Lusada est sur ce côté un petit peu direct. Il veut dire que si un joueur il fait l'appel, tu lui donnes dans l'espace. Si t'es ouvert, tu frappes. Si tu genre comme t'es, il y a un gros travail qui a été fait justement d'ailleurs par Patrice pour montrer d'où viennent les buts du CF Montréal. Donc, les schémas sont assez clairs. Donc là on voit l'influence très très nette de d'Herrera. Mais tu mets tu arrives à mettre le ballon, puis le ballon comme sur le couloir, puis le ballon il revient à deux trois joueurs qui sont en train d'attaquer le gardien adverse, et ou genre, comme c'est Aufort qui fait son travail au premier poteau, si le ballon après il traverse, ben derrière ce serait genre, comme Chouanière qui le récupère, ou Kyoto etc. Mais ça demande parce que là ce que les équipes ont très bien fait au-delà du pressing, c'est qu'ils font défendre Herrera. S'il y en a un qui a disparu durant les deux trois derniers matchs, ben c'est Aaron Herrera, et puis et tu te rends compte que ben si tu fais défendre les Lassiter et les Herrera, ben, cette équipe là dans l'axe du terrain va pas te produire grand-chose. Alors comme la force d'un match de Chouanière, c'est d'envoyer sur orbite les différents joueurs, c'est pas lui de porter le ballon et de faire des trucs avec, non, c'est il est très fort pour envoyer une passe dans le dernier tiers. Très bien. Et après donc comme t'as vraiment des excentrés qui ont une très bonne qualité de centre. Pour le coup, je pense qu'il faut reconnaître que Lassiter et Herrera sont capables vraiment de mettre des bons ballons dans la boîte. Mais c'est ça le style de jeu. Et à chaque fois qu'il commence justement à faire du Nancy, et on revient, et on va de l'autre côté, non, cette équipe, elle n'est pas configurée comme ça parce qu'elle n'a pas l'aisance technique, et de toute façon tactiquement on la dispose pas comme ça, mais techniquement t'as pas des joueurs qui genre comme ils sont à l'aise à garder le ballon pour garder le ballon, tout comme contrairement à l'équipe genre à la Nancy. Donc quand ils commencent un petit peu à faire ça, ainsi comme chasser naturel et revient au galop, ben ils donnent le bâton pour se faire battre, parce qu'il y aura à un moment donné une passe qui n'aura pas d'allure et qui va déséquilibrer toute l'équipe offensivement. Et puis là t'as vu que t'es Campbell, oui moi je suis à l'aise ballon au pied, ouais, mais Campbell il fallait venir en 2022. T'es là maintenant en 2023, c'est pas ça qu'on te demande, d'être à l'aise ballon au pied. Et je dis comme on n'est pas contre ça, mais le football doit être beaucoup plus direct dans ta façon de faire, et c'est là où enfin on y viendra tantôt avec Hilton sur les profils d'attaquants, parce que quand tu vois l'intention de Waterman au-delà du manque d'exécution technique, c'est qu'il envoie le ballon il veut envoyer le ballon au fort. Au fort, il aurait fait quoi avec le ballon?
J'espère qu'il remet en touche.
S'il le garde,
c'est moins pire que la perdre, c'est ça, en touche c'est mieux.
Et non, mais donc, au bout d'un moment, c'est clairement, donne-toi les moyens de faire ce que tu veux. Et puis, oui, très bien, il donne ce qu'il a donné, il a de l'envie, etc. Très bien, mais tu vas où comme ça? Donc là, moi, je pense que voilà. Donc, comme a montré Patrice, il y a une façon de marquer des buts et il faut la respecter. Parce que quand tu ne la respectes pas, ça fait les gros zéros qu'on a vus contre Cincinnati. Bon, là, le but de Red Bull, la déviation, etc., c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, ça fait rien. Tu dois respecter ça. Le fameux Lossa de Bol, je suis désolé, Reg, mais il existe. Mais il faut le respecter, parce que sinon...
Justement, on va voir ce qu'on pense.
Mais le truc, c'est que... Moi, je suis d'accord avec tout ça, 100% d'accord avec tout le monde. Le truc, c'est que si vous voulez exécuter le style de Lusada, ça demande du volume, là. Puis moi, la carte graphique que Patrice Bernier a faite, on dirait genre les buts d'un jeu FIFA, genre un match FIFA avant que les...
Moi, je suis juste jaloux de ne pas avoir accès à ce logiciel-là.
C'est le logiciel pour les flèches. Là, tu peux le faire, Avec Heatmap, là, sur Madden Soccer, là, après, tu as tes flèches, on dirait genre les buts de FIFA, là, avant 2004, là, tu vois, sur le côté latéral du centre, point penalty, puis tu marques, là.
Ça marche plus, ça.
Tu vois, les buts, ça fait un peu ça, mais je dis ça pour exagérer, je dis pas ça pour insulter l'équipe, là, l'effectif, mais ça demande du volume, là. Puis, comme on décide, si tu accules, genre, Lassiter et Herrera, ben, c'est fini, quoi. T'as plus d'armes. Et si Doug, il se blesse pas, si Doug, il n'est pas parfait à chaque fois, puis Doug, il est quand même très bon malgré son ralentissement, entre guillemets, là, depuis son tour de blessure, ben, c'est difficile. Et à un moment, le manque d'attente va le rattraper. Va rattraper ce club-là pour compétitionner. Pas pour jouer au football, mais il joue pas quand on déconne. Qu'on déploie. Donc, et je finis sur ça, c'est que tout le monde a joué genre les matchs mercredi, là, il n'y a pas que Montréal, mais comme ce club vraiment, comme tous les clubs, là, mais comme le talent est tellement limité, je trouve, ou du moins qu'il n'est pas assez exploité, si physiquement ils ne sont pas genre top là à chaque fois, ça va se voir. Et pas qu'ils vont perdre 4-0, ils vont juste pas avoir le dessus sur les duels importants. Parce que les duels, ils vont en gagner. Mais c'est quand comme dire, on a battu les Real Blues à la maison 2-0. Ouais, mais t'as vu le match? C'était comment le match? T'as vraiment l'impression que Montréal genre, a écrasé les Red Bulls étaient dominés. Tu sais, il y a une façon de gagner et de perdre. Et c'est ça que les gens, il faut qu'ils revoient les matchs et apprécier. Kansas City, c'était pas un 3-0. Là. Kansas City, c'était un 2-1. C'était... Tu sais, il faut.
Ils ont battu avec un coach qui s'est fait virer depuis. Donc,
c'est pas... Oui, mais c'est quasiment le même cœur. Tu sais, genre,
ouais, mais ils jouent différemment. Mais ils jouent beaucoup plus sur le CNI que sur
Stormer.
C'est bizarre, mais bon, bref.
Donc on voit que la motivation est différente déjà avec les mêmes joueurs. Ça peut aider. Losada, peut-être, depuis Vancouver, le 5-0, ben, il a repris les choses en main. Mais c'est pour dire, genre, il faut juste voir les circonstances. Là. Et moi, je trouve que physiquement, je trouve que ça demande beaucoup trop de choses physiquement à faire des duels pour. Et je reviens encore une fois à ma hypothèse depuis très longtemps sur ce club-là. Jouer avec deux milieux de terrain dans l'axe pour défendre et récupérer, je trouve ça très, très risqué. Et ça demande des atouts offensifs très, très forts pour pouvoir compenser ça puis faire mal à l'adversaire. Parce que si tu récupères avec peu de joueurs et tu gagnes le ballon et tu n'es pas efficace avec tout de suite, ben, si tu n'as pas de dévalu devant, bonne chance. C'est comme ça que je le vois par rapport au milieu de terrain. Je pense que c'est un truc important à regarder aussi, là, comment le milieu de terrain est positionné.
C'est intéressant. Juste avant de passer donc à la section 2, puisque on va parler justement du secteur offensif, à savoir si là le CF Montréal n'est pas un petit peu pris dans le piège avec Ofor devant qui leur apporte finalement une solution, mais qui finalement ne serait pas la solution. Donc ça, c'est Newton qui va nous y revenir. J'aimerais terminer cette partie 1 avec lui, l'analyse sur le but encaissé, notamment de Burke. Écoutez Losada et voir un petit peu ce qu'il en pense. On terminera là-dessus pour savoir un petit peu s'il a la même analyse que nous.
Non, ce n'est pas un manque de communication. C'était très clair les choses qu'on peut faire, les choses qui sont difficiles à faire. Il y a des choses qu'on va faire beaucoup plus d'attention. Et si je suis correct, ce sont deux goal kicks pour nous. Et à la base, deux goal kicks, ça vient le premier but, le corner. Après, avec 10, parce que Victor, il doit sortir. Et l'arbitre, il a dit qu'il va sortir. Il a même mettre notre staff médical un peu trop vite sur le terrain. Et on défend avec 10 les corners et on prend le premier but. Et le deuxième but commence aussi avec un goal kick pour nous. Donc, c'est dommage parce que je pense que l'autre équipe, s'ils méritent de gagner parce qu'ils ont fait de bonnes choses, de bonnes combinations et de bonnes attaques, je peux dire bravo. Mais à la base de comment ils ont marqué, c'est difficile à accepter. Et en plus, je vais dire ça parce que peut-être il n'y a pas de question sur les pénalties à la fin. C'est clair, main. Et la main, c'est pas proche de corps. S'il y a une règle, c'est premier et principal, c'est un frappe au but, c'est cadré. Et je sais que c'est à la fin du match, mais pour moi, c'est très, très clair. Donc, j'espère qu'il y a une règle pour toute la compétition par rapport à la main. Parce que sinon, c'est très difficile à comprendre.
Donc effectivement, ça revient un petit peu à ce que Sid disait. Effectivement, il y a des schémas de jeu qui doivent être respectés par le Stade. Là, on l'a vu sur notamment la relance axiale de Waterman sur Wanyama. Wanyama qui n'est pas en mouvement, qui finalement se fait prendre le ballon. Ça amène le corner qui amène le but. Même si effectivement, on s'accorde tous à dire que New York a quand même montré beaucoup plus d'allant offensif et de maîtrise technique que le CF Montréal. Les deux buts, en tout cas, ce que nous explique au coach, c'est que ça vient sur, comme Reg l'a dit, comme Sid l'a souligné, sur des cadeaux, entre guillemets, ou en tout cas sur le fait du non-respect, certainement, du plan de match, ou en tout cas de ce que doit faire sur les 6 mètres, ou de ce qu'on doit faire dans la première relance, etc. Donc, ça sera vraiment à voir sur les prochains matchs. On va marquer une première page de pub, et comme je vous ai dit, on revient dans le segment 2 avec, je l'espère, Nilton qui nous a trouvé la solution dans le secteur offensif.
Qu'est-ce qu'il fait? Je ne veux pas voir ça. Aïe! The Lawnmower 4.0 de Manscaped a été spécialement conçu pour faciliter le rasage des parties intimes. Et quand je parle de vos parties intimes, ça inclut même votre... Dotée de la technologie SkinSafe, cette tondeuse réduit le risque de coupure et d'accrocs sur vos bijoux, et elle est étanche. Alors, vous pouvez tailler votre buisson sous la douche. The Lawnmower 4.0 est équipé d'un moteur puissant de 7000 TPM doté de la technologie QuietStrong. Elle embarque aussi une lumière LED de 4000K et quand vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à la placer sur sa station de recharge. Plus de 4 millions d'hommes dans le monde font confiance à cette tondeuse. C'est 8 millions de bijoux heureux. Rendez-vous service et adoptez les appareils de précision Manscaped pour vos bijoux de famille. Allez sur manscaped.fr pour commander la tondeuse The Lawnmower 4.0. Recevez gratuitement un boxeur Manscaped et une trousse de toilette The Shed. La livraison est gratuite. Offre à durée limitée.
Manscaped.fr, bien entendu, avec le code promo Manscaped CANFC20. CANFC20. Et vous avez 20% de réduction sur les produits Manscaped que vous allez pouvoir trouver. C'est de la super qualité. Donc, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches, n'hésitez vraiment pas. En plus, en ce moment, vous avez des cadeaux qui vont avec. Donc, je répète, Manscaped 20 sur le site manscaped.fr pour vous faire plaisir. Lilton, ça va être à ton tour. On l'a dit, hein, dans le secteur offensif, on peine à finalement trouver des solutions. Manscaped.ca, excusez-moi, je dis .fr, Manscaped.ca. On peine à trouver des solutions.
Je ne me suis même pas rendu compte. Yo.
On peine à trouver des solutions justement parce qu'on a l'air d'être enfermé avec Ofor qui amène finalement un style avec beaucoup de jeux de longs ballons vers l'avant. Propose-nous des joueurs, Nilton. Propose-nous. La fenêtre du mercato va bientôt s'ouvrir.
Ouais. Mais je me suis inspiré d'une des questions que tu nous avais posées là, pour le deuxième sujet. C'était quoi exactement ta question si on avait absolument besoin d'un attaquant, exact? Un truc comme ça?
En fait, j'ai dit que c'est finalement le seul chantier durant ce mercato d'été, c'était l'offensif. J'avais même dit effectivement l'attaquant, le numéro 9.
Je ne sais pas s'il faut deviner que la rumeur d'Eden Hazard à Montréal indique que Montréal cherche effectivement un attaquant ou pas. Pour ce qui est d'Hazard, je pense que Olivier Renard a été assez clair avec Olivier Brett dans son entrevue, hein, comme quoi peut-être que c'était un jeu de pas nécessairement de médias, mais peut-être un jeu d'agent de joueur qui essaye d'utiliser une équipe d'MLS et tout. Mais dans l'entrevue, il laissait entrevoir que, encore une fois, ce discours de DP change un peu. Il laisse toujours entrevoir que si jamais il faut investir et que ça fait du sens au niveau de l'équipe, que ça fait du sens au niveau marketing. Ça ne veut pas dire qu'on est dernier et on va rester dernier dans cette fameuse liste de masse salariale. C'est pas impossible. On le voit que c'est pas impossible, mais on voit
aussi... L'argent est là, en tout cas. L'argent est à disposition.
Ouais, Joey a toujours de l'argent pour faire de l'argent. That's not the problem. C'est pas le problème. Il faut que ça ait une certaine logique dans l'équipe. Puis, à défaut de trouver une pépite, parce que ce qu'il avait dit dans l'entrevue, c'est que nécessairement, il ne faut pas nécessairement avoir un joueur connu. Piatti n'était pas connu avant d'arriver en MLS, Zéla Rayan, Annie Mukhtar, tout ça. Bon, je n'ai pas les capacités de trouver le prochain Annie Mukhtar parce que si je le trouve, le club va m'appeler et on va faire de la business ensemble. Mais si on peut essayer de voir le fameux outil où il y a un joueur libre en fin de contrat, qu'est-ce qui pourrait intéresser Montréal et qu'est-ce qui ferait du sens? Et j'ai décidé de jouer un jeu. Hein. On aime bien faire le ben oui, ben non. Puis je vais vous proposer, les gars, des attaquants libres cet été. Pas n'importe quel attaquant, là. Des attaquants qui soit fait du sens, des attaquants qui ont été déjà nommés dans des rumeurs MLS. On s'entend que les rumeurs MLS, souvent, c'est les classiques. Hein. Ils s'en vont à LA. Tout le monde s'en va à LA. Ils vont avoir 12 attaquants. Si ça ne fonctionne pas, ils restent Miami. Ils ont tous été pas mal liés à des rumeurs MLS. J'en ai gardé un à la toute fin, un long shot. Donc, je vous propose en série ces joueurs. Le premier, pour ceux qui sont en audio, Roberto Firmino, qui sort d'une saison quand même correcte là, pour Liverpool. Là. Il y a déjà eu des saisons moins bonnes que ça. Là. Il y a 12 buts en 34 matchs, un petit peu plus que 1500 minutes. Brésilien, 31 ans. il a fait ses adieux justement en fin de semaine à Liverpool. Ben oui, ben non, Montréal pourrait être intéressé ou devrait être intéressé à Roberto Firmino. Dans le contexte montréalais, là, on peut dire que les poches sont hyper pleines. Tu sais, il faut avoir
c'est ça, il faut qu'il y ait
le sportif,
il faut qu'il y ait un cadre.
Oui, il faut tout considérer. Sportivement, est-ce que ça fait du sens sur le terrain? Est-ce que Montréal pourrait avoir un budget qui intéresse tel joueur, etc., etc., ou aussi le volet marketing et tout?
Je prends en compte, c'est bien non.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, à 31 ans, il peut toucher un plus gros salaire ailleurs encore. Là. Donc, c'est pas.
Ah non, mais là, tu places à la place du joueur. Là. Il faut se placer.
Moi, je mets à la place du club. La place du club, c'est un banan seulement à cause du marché.
Il faut prendre tout en compte dans le sens que tu n'as pas l'argent pour l'attirer, en fait. Donc, ça fait partie du club, ça. Le club n'a pas l'argent pour prendre.
Non, tu as dit que lui avait certainement plus de chances d'avoir un autre contrat plus onéreux.
Oui, mais c'est la même chose, mais sans le dire. Pour moi, c'est évident dans la mesure où moi, je pense que le CF n'a pas les moyens de s'offrir un joueur qui sort de Liverpool qui a 31 ans.
Parce que moi, sinon, dans tous les autres trucs, je trouve qu'en plus, il fitterait avec le jeu. C'est quelqu'un qui est plutôt généreux dans l'effort, qui est en plus aussi généreux, même, qui joue avec les autres. C'est pas un neuf de surface, c'est un neuf qui participe au jeu.
Donc, un profil qui pourrait correspondre au Lassa de Ball, mais pas au budget de Joey.
Ouais, moi, je pense.
C'est un super joueur après. Hein, après.
Moi, le seul frein, c'est comment le club peut faire de l'argent en termes de marketing là, avec lui. Là.
Seul truc. Si on ne peut pas faire avec Firmino, ça...
Vas-y.
ça va être compliqué pour les prochains.
Je te donne 5 millions de dollars en marketing pour Firmino qui arrive. Fais-moi 10 millions avec.
C'est personnalité qui est attachante. Brésilien, ça reste toujours une belle marque dans le foot. Moi, dans le profil, il me plaît beaucoup. Moi, je te dirais, ben oui, je pense que c'est un joueur sur lequel tu pourrais vraiment te positionner all-in. Le salaire là, de Liverpool, son dernier, c'est autour de 10 millions d'euros. Il faudra être très, 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 très créatif. Mais surtout.
Il faut un beau condo.
Oui, mais il était à 31 ans.
Bâtiment.
Je pense que du côté de l'organisation. Parce que là, avec ce prix-là, c'est du côté vraiment. C'est très, 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 très haut que ça prend la décision. Est-ce que tu penses que tu es capable de cocher toutes les cases avec Roberto Firmino? Le fait qu'il ne parle pas français, je pense que ça peut être le seul. Même si ça lui peut apprendre vite, mais bon, ça peut être le seul. Allez, le petit hic. Mais ce que j'aime beaucoup sportivement, c'est que c'est un joueur qui est aussi très créatif. C'est Kyoto en bien mieux, tu vois. Donc, il est capable de marquer, faire marquer. Donc, c'est là où je trouve ça peut être très intéressant. Vraiment, en tout cas, moi, il me plaît sportivement. Sportivement, après 10 millions, 31 ans, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. C'est assez qu'il faut tirer ben longtemps pour.
On a d'autres options. On peut se garder en poche.
Vas-y.
Suivant. Un autre Brésilien?
Non.
Je vois des têtes qui font des noms à gauche, à droite. Il parle français, lui, probablement, non?
Il parle français, mais...
Lucas Moura, pour ceux qui sont en audio, un an plus jeune. Ça a été pénible à Tottenham.
Ouais, mais lui, c'est pas un buteur du tout.
C'est ça.
Donc là, c'est un joueur, un joueur par rapport à la messe qui va être un joueur de qualité, mais un, c'est pas un buteur. Deux, c'est un joueur qui est-ce qu'il va maintenir le niveau de forme nécessaire pour performer en MLS? De ce côté, je pense que la réponse est non, parce que il part avec physiquement, ce sera un peu plus compliqué pour lui. C'est pas comment l'expliquer, c'est pas.
Et même dans le schéma de Losada, là, il va nulle part, hein.
Je pense que Losada va s'adapter à n'importe qui.
Mais dans ce cas-là, si on part avec ce schéma-là,
on fait le jeu sérieusement ou on le fait pas là.
Non, mais après il faut quand même considérer le changement de ligue quand même, ça impacte. Par exemple, Insigne ne joue pas là où il joue à Naples. Mais ce que je veux dire, c'est que
pourtant.
Non, il joue plus devant là, il est complètement excentré sur la gauche là. Okay. Mais parce qu'il veut pas être dans le trafic et prendre des coups. Donc tu vois, c'est le mindset.
Il touche la ligne. Il a fait personne sur la ligne.
Ah ouais, voilà. Non, mais moi je pense, contrairement à Roberto Firmino qui semble être une autre personnalité, moi je pense que Lucas Moura, c'est vraiment le pouf, dit comme le la recette pour le désastre.
Tu vois, ah ouais, ça, ça va être l'argent, ça va être un gouffre non, financier.
C'est l'équivalent de Boyan. Il n'a rien donné.
Voilà, c'est comme ça va arriver ici. Oh, ça y est, c'est bon. Allez.
C'est bon, next.
Ça me saoule.
C'est un taux, ça
un autre disponible. Alors, Jordan et Ayou.
Ça, ça m'intéresse, mais niveau personnalité, par contre, c'est, j'ai lu quelques documentaires sur lui et que c'est au niveau personnalité, faut arriver à le driver. Faut vraiment
moi, arriver à le driver. J'ai vraiment du mal à passer ce joueur, man. Je pense Orlando, Miami, à Chicago. J'ai du mal à mettre Montréal dans aucun des joueurs.
J'aime beaucoup le profil. Et pour le coup, tu vois, lui, il peut garder beaucoup mieux la balle que Aufort, vraiment beaucoup mieux techniquement.
Ah bon, après, regarde, il y a beaucoup de joueurs qui gardent mieux la balle qu'Aufort.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le même style que Aufort. Ça va être un appui. Alors que
moi, déjà, pour reprendre ce qu'a dit Sid par rapport à Lucas, moi, je trouve que c'est pas assez un buteur.
Jordan Ayew, il fait ses 10 buts et plus. Hein.
Moi,
il prend des pénaux. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est un joueur qui
10 buts toutes les compétitions qui sont confondues, confondantes, genre
avec les entraînements,
avec la pré-saison.
Non, quand tu fais le prorata des minutes jouées et tout, si l'an dernier,
il y a quand même beaucoup de minutes là pour.
Parmi les trois, là, c'est le troisième, right?
Il a mis 4 buts en 37 journées d'IPL, excuse-moi. C'est ça qu'on dit, il a mis sa
main. Moi, c'est le joueur que.
Mais il n'a pas joué tout le temps, Reg.
Moi, c'est le joueur.
37. Il a joué au moins 37 matchs.
Non,
oh, ouais, il y a 37
fois.
Moi, c'est
2800 minutes de jeu là, cette saison. Là. C'est quand même.
Ouais, non, mais Reg, ton point est valide, mais. Pareil, les trois joueurs, là, pour le moment, Firmino, Lucas Moura et Jordan Ayew. Jordan Ayew, j'investirais sportivement en lui. En salaire, c'est pas aussi grand.
Ça sera pas aussi grand, ça, c'est
sûr. Ça sera pas aussi grand. Il va vouloir doubler son salaire, donc il va aller quoi, 2 millions d'euros ou de pounds, donc 2-3 millions.
Il parle français.
Il parle français. Même la langue est secondaire, parce que.
Ouais, c'est un critère, ça, maintenant.
Non, pour moi.
Ça peut aider.
Non, ça peut aider. Mais sportivement, comme il
est. Je vais juste préciser, parce que je l'ai amené, sauf et juste pour qu'on comprenne bien. Je pense qu'à un certain montant d'investissement, tu veux cocher toutes les cases. Tu sais, comme on en parlait, dans l'excellent épisode numéro 2 de CCPP, tu veux cocher toutes les cases. Et je crois que là, à ce moment-là, au bout d'un moment, tu arrives à la case. Est-ce que lui, on peut l'envoyer dans toutes les émissions possibles, imaginables, pour faire la promotion du club à un certain montant. Par exemple, Ayew, disons qu'Ayew ne parlait pas, il a 2 millions en ce moment, Ayew, et qu'il ne parlerait pas français. Ce ne serait même pas une considération. 2 millions, c'est le prix que tu dois quand même être capable de mettre si tu veux avoir... t'en mettais 3 sur Wanyama, là. Okay, donc là, pour le coup, moi, je n'aurais pas cette réflexion-là. À 10 millions... C'est même, regarde, je vais t'expliquer un truc. Regarde, qui est complètement fou, hein, mais bon. À 10 millions, je dirais même juste, même marquer des buts, mais même pas, si tu marques des beaux buts ou des buts qui nous font vibrer, je dirais que c'est même pas suffisant. Tu sais, c'est véritablement là, il faut que tu te dises, mais non, mais lui, c'est la statue, c'est tout, tu vois, genre à ce montant-là. Et après, plus tu descends et moins tu as des gens, tout ce qui est accessoire, je suis clairement d'accord avec, je suis d'accord avec vous. Sur cet aspect-là particulièrement. Les coachs, on aurait une autre discussion, et d'ailleurs, on l'a eu déjà, sur la langue, mais voilà, c'est juste pour que le point de la langue.
Ouais, moi, sportivement, je le trouve plus intéressant. Il peut jouer attaquant support, attaquant pointe, ailier quasiment, il peut même dépanner comme Kyoto, là, une sorte de numéro 10 hybride, là, j'exagère comme numéro 10, mais dans l'entrejeu, là, un peu. Journaliste, c'est celui qui m'intéresse le plus.
Avec l'argent, pour le rapport qualité-prix, il vient de passer numéro 1.
Je pense aussi, par rapport au fig, j'avoue que Sof amène un bon point, le côté où il peut quand même jouer à pas mal de postes aussi.
Parce
que c'est intéressant. Puis... Après, il va coûter moins cher que Firmino, c'est clair, c'est pas le même standing, là. C'est pas la même.
Firmino, il va compléter son salaire de moitié.
C'est pas le même chapeau, là, au niveau des chapeaux des joueurs, là, c'est pas pareil.
Je vais juste, dans ton même sens, Nilt, pour aller, je vais juste vous donner deux statistiques, s'il vous plaît. Mon joueur numéro 1, a donc 135 matchs joués en Ligue 1 pour 35 buts. Et mon joueur numéro 2 a 159 matchs joués en Ligue 1 pour 31 buts.
Pas assez buteur, c'est ça qu'on disait?
Il y en a un qui est qualifié de pas assez buteur et il y en a un autre qui est le MVP de la Ligue.
OK, on a d'autres choix. On va voir si on peut trouver un choix.
Julien, tu parles? Ah oui, parce que t'écoutais pas, hein.
J'ai pensé c'était qui en même temps, c'est
Denis Bouanga. Mais non, mais de la ligue.
Ah oui, ok.
De notre podcast.
J'avais pas compris de pardon. Comment tu l'as dit?
Et moi non plus, ouais.
Denis Bouanga.
Mm-hmm. Oh ouais,
lui, c'est... il coûte cher, lui. C'est quoi, c'est 6 millions, lui?
Ben, statistiquement, ils se valent pour l'instant.
Oui, je sais, mais il fallait. Mais il fallait, il fallait, mais... les... il fallait être confiant.
Ah, mais si tu savais.
Ouais. Tu disais, on le connaissait. Je sais pas, c'est peut-être pas 6, mais de mémoire, je me semble que c'est 6 millions. Il fallait avoir une confiance assez top là, pour lui donner 6 millions pour dire ouais, ils vont nous planter des buts.
En Montréal, ne prenait pas jamais ce risque-là. Là, je pense pas.
Ouais, il est gabonais, il parle français. Je pense que Denis Bonga aurait. Moi, je trouve il a un profil, je trouve, plus buteur que Jordan Ayew.
Oui.
Mais... Moi, je trouve, dans le style de jeu, déjà, il joue plus 9. Alors que Jordan Ayew, j'ai toujours l'impression qu'il joue ailier ou un peu 9,5, 10.
Mais c'est jamais clair. Là.
Sans vouloir rabaisser la MLS, ces joueurs-là, pour eux, marquer des buts, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, Jordan Ayew, genre, il se tape Mings, ouais, il se tape
Saliba. C'est facile, mais tu sais, regarde Chicharito, c'est pas facile. Là.
Est-ce que tu réalises que genre, Jordan Ayew, quand il fait genre, tous les derbys de Londres, il se tape des joueurs genre, internationaux, genre, sans sélection à chaque fois, là, quand il joue tous les derbys de Londres? Tu sais, s'il en marque 10 ou 15 à chaque saison, c'est bon, il sera déjà Chelsea. Moi, je dis ce genre de joueur, genre, voilà, la Ligue 1, c'est bien. On dit que, genre, LFC peut jouer en Ligue 1, mi-tableau, sure, si vous voulez, oui. Certains experts malades seront osés de dire ça. Non, mais ils rêvent en couleur. Mais.
C'est juste pour qu'on soit clair on the record.
Oui, non, c'est pas mi-tableau. C'est
relégal. Mais il veut un enregistrement où il dit non.
Oui, oui.
Ce qu'il veut. Ouais, moi aussi, je veux un enregistrement.
Il veut son clip TikTok où on dit LFC, mi-tableau, LFC. Non.
Non.
T'as combien de joueurs, Nilt?
T'as hâte que ça finisse, hein? On va y aller.
Non, au contraire, j'aime bien ce jeu. J'adore ce jeu.
Ah ouais. Quatrième, on en avait parlé. Non.
Non. Clairement pas.
C'est quoi ce point? Vas-y, pour l'audio.
On veut rien savoir de Stéphane El Shaarawy.
Ça, c'est le gars. Tu lui donnes l'argent, il le prend dans un sac avec un signe de dollar, il revient plus en fait. C'est ça qui va se passer. Ça va être un gouffre financier, genre.
Non, on tente pas ça.
Ça, c'est écrit flop. C'est pas écrit Qatar Airways. Là. C'est écrit flop sur son maillot. Lui,
mais,
là...
mais imagine qu'il fonctionne. Je pense qu'il pourrait devenir rapidement le favori de la Sacito.
Nilton, on parle d'un gars qui a tout le temps eu un peu... Partout où il est allé, ils ont dit « Moi, je vais le relancer. Moi, je vais le relancer. Moi, je vais le relancer. »
Puis le Sada, il ne sera pas capable?
Écoute, il y a beaucoup d'équipes qui ont essayé. Moi, je pense que ce gars-là, ça devait être c'est un grand espoir.
Ouais.
Mais non. Moi, là, c'est Stéphane El Shaarawy.
Regarde, c'est ces bonnes années en Syrie, c'était avec la Rome avant qu'il revienne à sa première version romaine.
Donc, là, c'est là-bas,
romaine. Je pensais milanaise, romaine.
Romaine.
C'est pareil.
J'allais pas te louper.
Attention.
Attention.
Quand j'ai vu ces statistiques, c'est sûr qu'il va rester en Turquie. Là.
Il
a planté 28 buts en 29 matchs.
J'ai vu, sérieux, à la Coupe du Monde, j'ai fait quoi? C'est fou. Ok, Manio, ce mec-là, il continue de planter encore. Machine. Lui, pour le coup, c'est une machine.
Il joue encore, lui.
Non, il est chaud.
Mais dans l'optique du club, c'est la limite, là, je crois. Hein.
33, c'est... il y a toujours un risque.
Kai Kamara, tu me diras.
Puis Kai Kamara, il sait mettre des buts. Hein. Puis pour l'instant, on n'a pas remplacé.
Faut faire attention avec l'âge. Il y a l'âge qui est écrit sur le papier, puis il y a l'âge de ton corps.
Oui. Non, c'est sûr.
Il y a l'âge du passeport, t'allais dire.
Non, je ne suis pas allé là.
Attention à l'âge, là.
Je suis pas allé là.
Moi, pour moi, je prends Jordan et Ener, là, Valencia.
Ener, c'est un vrai buteur. C'est un gamer. C'est un gars comme Kyoto, mais qui ne se blesse pas comme Kyoto.
Je pense même. Qui est plus fin techniquement.
Oui. Et c'est un guerrier sur le terrain, hein, Valencia. Ouais, franchement.
Ouais, c'est ouais. vraiment un profil MLS de
type. Ah ouais, ça, c'est un gars.
J'imagine que le club.
C'est un profil sortie. MLS qui va se retrouver à Houston, puis on ne sait pas pourquoi. Houston est parti à Houston. À part pour
l'argent. C'est vrai, hein? C'est vrai.
Ah ouais, genre, Houston, Dallas, Austin, genre. Ouais,
parce qu'il fait chaud là-bas tout le temps. Il cherche un climat qui se rapproche de chez eux.
Tandis que nous, au mois de mai, on annonce du gel au sol.
Moi, je me dis déjà, les hispanophones qui ont une certaine marque internationale, il faut oublier, genre. Tout ce qui est genre East Coast, Nord-Est,
ouais, ils vont pas être attirés par ça parce qu'ils vont chercher avant tout une qualité de vie et on parle quand même de mecs qui viennent de pays chauds. Ouais. Moi j'ai du mal à croire.
Ouais, mais au mois de juin il fait chaud, il va oublier que 6 mois plus tard on va faire.
Non, je sais pas. Aujourd'hui il faisait pas chaud, man. Puis on est proche d'être au mois de juin, man. Sérieux là.
Rentrez vos plantes tomates. Ouais. Donc oui, mais ça arrivera pas, c'est trop.
Ça arrivera pas, ouais.
Mais au final ça va même au niveau salaire, c'est pas donné, hein. On parle quand même d'un gars qui, depuis quelques temps en Turquie, il marque quand même sa valise
j'arrive
de buts.
À trouver justement, j'arrive pas à trouver niveau salaire.
Salaire, je vais essayer de trouver.
De quoi on parle avec lui, j'ai pas d'informations.
Très bon, c'est mais, ce joueur.
Okay. Mais il y avait.
Il est à 3 millions d'euros, là.
Il est à 4 millions. Non, ça, c'est.
Mais moi, le dernier salaire que j'ai, c'est celui d'Everton, où c'était 2,5 millions d'euros.
Il doit pas être. La Turquie, il paye moins qu'avant, là.
Ok, ça, c'était en 2016, là, quand il avait 26 ans.
Quand il paye, quand il paye.
Donc, moi, je pense pas que le niveau salaire, ce soit un problème, parce que ça m'étonnerait qu'il soit plus payé en ce moment qu'il était payé quand il était en.
Pas faux.
En MLS, t'es sûr d'être payé, même si ça va mal.
Donc là, ouais. Lui,
il est vraiment intéressant.
Ouais,
là.
Ouais, checker.
Juste deuxième parenthèse, parce qu'on n'est pas complètement fou. Tous les noms cités par Nilton sont tous meilleurs que l'attaquant actuel. On est juste en train d'être dans le. Voilà, c'est ça. Non, parce que peut-être qu'il y en a qui pensent que.
Est-ce que Lucas Moura est meilleur que Kyoto hein? Je dis ça comme ça. Là.
Ouais, non, mais tu peux le dire. Mais après, il y en a un qui joue en première ligue et l'autre qui. Bon, qui nous fait plaisir.
L'autre qui va prendre le maillot de Messi, genre en jouant blessé. Man. C'est pas la même chose.
En passant.
Level.
En passant.
Suisse, on a fait forget.
En passant.
En 2018, il y avait une rumeur qui parlait de Valencia à Montréal.
Je m'en rappelle, ouais. Il y a même genre un mime avec genre, lui en maillot bleu, je pense.
T'as vu ton joker, Hamilton?
Non. Okay. C'est un vrai joker. Ça, c'est... j'ai failli pas le mettre, mais je voulais juste voir Reg s'énerver. Diego Costa.
Moi, je prends.
Espagne/Brésil.
Je le prends tout de suite.
Toujours rêvé d'avoir ce gars-là dans une équipe.
Pour vrai? Vous m'étonnez.
J'étais
obligé de le prendre.
Mais Ultimate Villain à Montréal, c'est sûr qu'il n'y a aucun derby de Toronto. Là.
Yo, ce mec-là.
Matin et midi soir.
Je le prends tout de suite. Diego Costa, tout de suite.
Après, il s'est vraiment.
Même s'il y a juste un but dans les peut-être 2 dernières années.
Ah, mais
là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Non, j'ai. Franchement.
Et nous, on a un facteur, le facteur Eurosnobis. Ouais, non, c'est bon, ça va. Vas-y, un but en 3, ouais, c'est bon, c'est vraiment MLS.
Attendez,
vous avez une défense
au niveau physique, je ne suis pas sûr qu'il est top. Hein. Il se gâche un peu.
Non, là, il est Shaqiri, compliqué.
Shaqiri, sauf. Tu sais, faut quand même.
Non, moi, je ne prends pas.
Faut doser.
Je ne prends pas.
Ah, mais je ne dis pas qu'il marque 15 buts.
Je ne prends pas Diego Costa.
Ah, d'accord.
Moi, je ne dis pas que Diego Costa marque 15 buts. Genre, come on.
Tu peux nous expliquer un peu pourquoi?
Mais moi, c'est son tempérament. C'est
Ouais, toi, t'aimes les joueurs un peu lisses, quoi. Toi, t'aimes le football qui joue en blanc, où on ne salit pas.
Non, si mais quoi,
on dit
non,
bonjour, monsieur, et merci, quoi.
Non, Firmino.
Ça, c'est ton football.
Le Firmino ou Ener Valencia, c'est des guerriers. C'est des... Ils ne lâchent pas. Mais...
Des guerriers, Diego.
Non, je te dis que c'est des guerriers. Mais moi, tu vois, Ener Valencia et Firmino, je les prends plus que Diego Costa, si je dois choisir dans la liste, là. Aujourd'hui, Diego Costa.
Personne n'a dit plus que qui. Là, on te demande lui, tu le prends ou pas?
Non, je le prends pas. Avec tous les joueurs qui viennent me présenter, je le prends pas. Non.
Okay.
C'est un sale gamble, Costa à Montréal.
Non.
Oh. Ah, après, c'est. Mais par contre, pour avoir vu quand même quelques matchs là, ces derniers temps,
il est beaucoup moins rapide.
Ah ouais, là, je trouve même il apporte très peu dans le jeu.
Même
là,
son jeu de tête, c'est moins performant. Ah, c'est bien.
Ouais, c'est peut-être un peu dans le côté prime.
Oui, non, là, il est retourné en Espagne, c'était pas terrible. Après,
mais là, je suis en train de l'imaginer, t'es à Orlando, comme beaucoup de Brésiliens.
À la Cara.
Le Brésilien fini à Orlando, ça fit, ça.
Ouais, c'est ça, ouais. Puis c'est vrai que bon.
Non. Donc, on était énervé au début, mais c'était.
Ouais, on s'est vraiment ici.
Non, mais moi, je... mais tu vois, regarde, moi, j'ai l'impression quand même.
Moi, je suis prêt à prendre un risque. Ce que je dis, c'est un joueur TAM. C'est un risque que j'accepte.
Moi, t'as fait d'accord avec toi. Ouais. C'est un gagnant. Il était de l'Atlético de Madrid qui a gagné, même si il n'a pas fait beaucoup de matchs. Que je vais te dire d'autre, c'est que le fait que moi, je pense qu'à Montréal, il serait vraiment, vraiment, vraiment aimé. Et ça le nourrit. Ah ouais. Je pense que c'est un gars qui, cet amour-là, il va le prendre et il est capable de faire des choses complètement folles.
Il ferait un peu, à moins qu'il est vraiment méchant, mais j'ai pas l'impression, il ferait un bon mentor. Il me donne l'impression, en tout cas, j'espère.
Non, je pense qu'il s'en tape un peu là de former qui des gars là. Je pense qu'il s'en tape. Sérieux, il est pas là pour ça.
Sont allés loin.
Oublie ça.
Peut-être hors terrain, mais sur
terrain.
Et
j'ai été poli. Non. J'ai failli être un peu vulgaire, mais j'ai vu l'heure.
Sans tu pousses un peu.
Allez, on avance un peu. On avance un peu.
J'ai l'impression qu'il y a un côté généreux en lui. Je le sens là.
On avance.
Prochain.
Ah,
oh, oui, bon, à toi, dès que ça part de ta petite Ligue 1, là, t'es tout excité. Hein. Mais regarde.
Casserie, qui a été une rumeur, qui est démentie par, démenti par Olivier.
Demain.
Mais c'était la fameuse rumeur sur Instagram comme quoi il s'en venait ici cet été visiter Montréal et aller voir si.
Julien est tellement prévisible, c'est fou.
Donc, buteur de 4 buts Ligue 1, Julien a dit oui.
C'est exactement ce qu'il a dit.
Cette saison beaucoup plus compliquée, il s'est blessé.
Oui, c'est ça. Il y a des circonstances atténuantes.
Oui, retour de la Coupe du Monde. D'ailleurs, en Coupe du Monde, il marque contre la France. Il fait une super Coupe du Monde.
Ouais, bon, la France avait une équipe stée, frère. Vas-y, arrête, Julien. Eh, Julien, t'es pas crédible. Vas-y.
Je donne des faits, là. Je fais un constat.
Arrête, Julien.
Coupe du Monde.
T'es pas crédible. Il a fait une belle Coupe du Monde. Oui, t'as dit, il a fait une belle Coupe du Monde. Il a marqué contre la France. Match numéro 3, il y avait une équipe D, man. Qu'est-ce que tu me racontes?
On s'en fiche. Il y en a qui n'ont jamais marqué contre la France, même en équipe C.
Bref, en tout cas, moi je pense que. Ok, je vais te laisser finir.
C'est un leader technique. C'est un leader technique qui peut jouer dans deux positions. Lui aussi, la Grinta, t'as même pas.
Ah, la Grinta, c'est bon.
T'as rien à parler. Oui, mais parce que avec Glossoda, il faut l'avoir.
Justement, c'est pas un fit avec Glossoda, lui. Il jouera. Non, ça marchera pas. Il va trop s'énerver, ce terrain. Il y a trop de mauvais joueurs autour de lui. Il va s'énerver, ça marchera pas.
Moi, je pense que.
C'est vrai que c'était mon bémol. C'est vrai que c'était mon bémol aussi.
Le seul truc, c'est que moi, je trouve, à la rigueur, ouais, c'est vrai, mais je pense, moi, c'est niveau physique. C'est quand même quelqu'un qui a un historique d'arriver quand même souvent en surpoids. Il va aller dans une ligue qui est quand même dite moins compétitive, moins sérieuse. À quel point il va prendre ça au sérieux pour rester fit? Moi, c'est plus ça, mon bémol.
Moi, je pense pas qu'il en a besoin. C'est un gars qui tente un lob de 40 mètres à chaque match qu'il fait. Il va arriver. Non, mais.
Il en a réussi en plus.
Il va juste décocher des frappes. Je le vois prendre le ballon, juste le faire une petite semelle. Paf! Il va s'éclater.
Il est confondu.
Moi, j'adore. Franchement.
C'est un créateur.
Il arrive à Montréal avec son numéro 99. On vient de chercher la moitié des médias francophones. Là. C'est réglé.
On n'est pas pour les bonnes raisons, mais. si on vient les chercher et qu'ils peuvent rester après.
Donc, Julien, c'est ton favori, Casserie?
Mais parce qu'en plus de ça, je pense que la rumeur était vraiment. Tu sais, il n'a pas démenti non plus, lui, parce que je le suivais.
Un peu beaucoup.
Ouais, mais il a pas démenti Casri.
Mais quand un joueur va démentir la
c'est
rumeur.
C'est même pas qu'il y ait une rumeur sur lui, peut-être.
Bah, si, non, il peut dire aucun rapport. Tu sais, la Turquie. Bah, si, je sais pas, on l'envoie.
Ensuite, pas l'avenir, tu sais pas ce qui peut se passer.
Sinon, vous autres, vous restez tous les trois avec Jordan et Ayou?
Ah oui, parce qu'on doit faire un choix là.
Mon prochain, c'est le long shot.
Si demain matin, les deux se présentent, on dit, tiens, comme
ça. Ah, moi, je prends Casri, moi.
Ouais, moi, je prends Casri.
Ayou, moi, je trouve, il est trop. C'est un wild card, Casri.
Alors, vous m'avez tous rionné, mais vous prenez plus Casri.
Non, moi, s'il y en a un à prendre, moi, c'est plus.
Moi, je prends Jordan.
Valencia.
Ah, ouais. Valencia. Moi, c'est Valencia, mon numéro.
Ah oui, je suis d'accord. Ouais.
Valencia, c'est le gagnant. Mais...
Donc, je continue à trironner, si tu veux vraiment savoir.
Bon, mon prochain, c'est vraiment un long shot. J'ai été étonné qu'il soit sans contrat.
En ce moment, son contrat arrive à échéance.
Okay. Il arrive d'un gros club. Il n'y a pas les stats pour. Mais je me suis dit, ça serait peut-être une relance de fin de carrière.
Attends, viens, on lance des noms comme
ouais,
ça.
J'ai envie de
gros club, pas beaucoup de minutes. Il était vraiment pris derrière des trop gros attaquants pour performer.
Attends.
Je pense qu'il parle français. Ou en tout cas, il est passé par la France, donc peut-être qu'il a eu le temps d'apprendre le français.
Attends.
Un attaquant.
Okay, ça n'avait pas fuité. Moi, j'allais dire Cavani, par exemple. Mais
Cavani parle français un peu.
Ouais, Cavani parle français.
Mais il reste un autre contrat.
Il est occupé à Valence avec deux problèmes.
Il pourrait vouloir quitter Valence.
Je raconte ça.
Il y aura une enquête là.
Oh, attends,
me dis pas que
là, il y a slidé un autre. C'est vraiment un long shot là.
Allez, mais dites un nom, les gars.
Oui, excuse, j'arrive.
Un attaquant dans les attaquants.
Un attaquant qui a déjà passé par la France.
Est-ce que c'est IPL? Il est en IPL là? Il est en IPL?
Mais là, dis un nom, c'est tout.
Attends.
C'est sud-américain.
Ok, bon, parfait. C'est bon à savoir déjà.
Sud-américain dans un top club, a déjà joué en France. Il joue presque pas.
Oh, bah, tu vois, j'avais moi, à Cavani, j'étais pas si loin. Hein.
Ouais, pas si loin. Pas loin du tout, même. T'étais vraiment pile poil dedans, là. Un sud-américain, Falcao?
Non. Non, okay. Non, plus jeune. Ah, ouais. Plus jeune.
Plus jeune, ok.
Oh, plus jeune. Je, non, j'ai aucune idée, man.
Dans un top club, il joue.
Moi, j'ai pensé à Thomas Müller.
Ouais, t'as raison, j'avais oublié.
Tu parles.
Ça va, redescends, de quoi je parle.
Il joue à la Liga.
En quelle année on est?
Il joue en Liga?
Ouais.
Ah, Martin Braithwaite.
Aubameyang?
Non.
Martin Braithwaite.
Non.
On t'a dit sud-américain, tu dis Aubameyang. Lui, tu l'embrouilles pas. Lui, tu l'embrouilles pas.
Non, mais sérieusement, le temps que je processe,
Aubameyang, c'est quoi votre problème, les gars? Vous êtes
c'est compliqué, la géographie.
Bon,
je vous montre ça, les gars.
Vas-y. Ouais.
Allez.
Ah, Mariano. Oh,
c'est vraiment un top club, effectivement.
Ça, c'est un projet.
Écoute, tu sais quoi? Est-ce que je peux...
Mais en France, il y a une très belle saison avec Lyon.
C'est ce que j'allais dire. Ce mec-là, en toute honnêteté, et je suis sûr, Julien, on va être d'accord là-dessus. Non, ce mec-là, pour une raison que j'ignore...
Le mec de Ligue 1, là.
Beaucoup, ouais, le mec de Ligue 1, le spécialiste Ligue 1. Tout le monde se moque de lui. Il joue absolument... J'ai envie de te dire, il joue jamais, mais il joue jamais. Genre
Benzema, non, jamais. Il y a 150 minutes de jeu.
Et Benzema peut être en chaise roulante, ils vont quand même le mettre. Ou ils vont mettre Rudiger en pointe. Genre, il joue jamais. Mais en France, comme tu as dit... Il jouait régulièrement. Je pense qu'il a mis pas loin de 20 buts, sérieusement. Je pense qu'il en a mis comme 16, un truc comme ça.
Mais...
C'est un vrai buteur.
Celui-là, on peut le considérer, Nil.
Et lui, il travaille. Lui, il travaille. Il a encore l'âge pour... Moi, je trouve que ça pourrait être intéressant.
Mais longshot, si en fait, tu disais longshot, Nilton, par rapport aux minutes jouées, quoi. Par rapport au fait qu'il...
Moi, je pense par rapport au marketing.
C'est un joueur qui est en dessous complètement du radar. Un joueur qui peut-être... Une fois qu'il quitte le Real Madrid, est-ce qu'il va être intéressé vraiment
ça vaut pas cher,
en MLS?
Ouais, mais en salaire.
Le problème, c'est qu'il va être gourmand parce qu'un mec comme ça, pour rester où il est sans jouer, c'est parce qu'il a un beau salaire, tu vois.
Non, mais si les Scott l'a mis en Europe, tu vois Leverkusen aller sur lui, tu vois peut-être Everton s'il reste en IPL, c'est un genre de joueur qui peut intéresser un club qui a un peu de budget.
Il a déjà 29 ans, le club.
Ouais, c'est fou. Moi aussi, je croyais qu'il était quand même plus jeune quand même.
Bon, honnêtement, Nijon, je suis peut-être biaisé par le violet dans le fond, là, mais moi, je vois mal d'Orlando sur lui. Là. Genre, Orlando, dessus.
Il ressemble à John Dwyer, donc tu veux le prendre.
Non, mais Brésil.
Mais ça serait une belle brise pour la MLS, non?
Mais ouais. Honnêtement, il est, tu sais, c'est un mec de République dominicaine, il y a une petite diaspora ici. Moi, je pense que le français.
C'est un mec de République dominicaine?
Ouais, je pense que
les moitiés République dominicaine et espagnole, mais je pense qu'il a joué en équipe de jeunes, mais il est né en République dominicaine.
Mais là, il est Brésil.
C'est un des rares joueurs.
Moi, je pense
pas Brésil.
Je pense qu'il n'y a pas
de joueurs. Une erreur en passant.
Mais c'est pas Brésil dans ma tête.
Non, c'est une erreur.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui s'appellent Mariano, mais il n'est pas Brésilien. On est une émission sérieuse ici, messieurs.
C'est pas grave, on l'annonce comme Brésilien.
Mais en termes de citoyenneté, il est espagnol et dominicain.
Oui, c'est ce que je viens de dire. Merci, okay. Sœur, de
confirmer. Non, je faisais un résumé, ce n'était pas pour mettre un point. Là. Non, un résumé.
Donc, j'ai été chanceux quand j'ai dit sud-américain parce que je n'avais pas vu qu'il était
république dominicaine. En plus, c'est Amérique, c'est les Antilles. En plus.
Je ne vois pas.
Il y a des gens qui ont dit Aubameyang quand tu as dit sud-américain ou Brésil.
On est OK.
j'ai bugué avec le top club. J'ai bug le tapis, je ne trouvais pas.
Nilton, merci, merci infiniment, Nilton. Et en tout cas, on retient Jordan Ayew, Ener Valencia, Wabi Kazri et puis Mariano. Donc, si Olivier Renard nous écoute, peut-être.
Et qu'il y a de l'argent.
Que... voilà, il va aller.
On répond à la question de Gaëtan.
Lequel on aimerait le plus, lequel est un meilleur fit,
Énerve, ouais.
Après, écoute, après, aimerait le plus, c'est ils veulent quelqu'un qui soit qui mouille le maillot et qui soit efficace. Moi, je dirais énerve. Après, en termes de personnalité, Wabi Kazri sera un bon client, tu vois. Je pense je l'ai déjà entendu en entrevue, il est quand même marrant, tu vois. Il est cool. Ouais, donc, lui, je pense qu'il sera un bon client, mais en termes.
Il faut qu'on laisse parler, quoi, aussi. S'il parle pas.
Non, Wabi, il est marrant.
Le truc, c'est que, genre, est-ce que tu peux passer de 8 000, je sais pas quoi, à 12 000, 15 000 billets de saison pendant 2-3 ans? C'est ça le truc, tu vois.
Ah, ben après.
Le but du club.
Et ça s'appelle Eden Hazard.
Moi, je pense que ça fait pas un joueur en particulier.
Mais c'est oui, ça prend juste le coach qui est parti.
L'année dernière, George Eras, c'était Full House.
Il a pas de billets de saison. C'est un peu différent.
C'est bien, ils ont vraiment genre un revenu garanti pendant 2-3 ans. Ok, on veut monter et on veut monter à 12 000 et que 12 000 devienne la base. Et qu'on a la base, on
Là, il faut. Oui,
ça prend du temps.
Allez, merci beaucoup, Nils, de ce super travail. Petite page de pub et on revient pour le dernier segment avec ce qui s'en vient à la demi-finale du championnat canadien.
Microbrasserie.
La Forge du Malte.
La Tignasse, une bière forgement envoûtante. La Forge du Malte.
Point.
Désolé pour les fausses notes, nous on brasse la bière.
Toujours la Forge du Malte à nos côtés depuis les débuts. On les remercie, hein, Guy et son équipe. Vous pouvez aller sur leur site www.laforgedumalte pour voir un petit peu ce qu'ils font de nouveau. Vous allez retrouver la Côtesse, la Tignasse notamment. Vous allez retrouver aussi les points de vente où vous pouvez acheter ces bières. Et puis, si vous passez par Trois-Rivières, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou parce que ils sont très actifs avec le CANFC. Ils donnent notamment des paires de billets pour certains matchs. Ils sont en collaboration avec nous sur le MLS Fantasy que Reg va vous présenter à la fin de ce segment. Donc, vraiment, merci beaucoup, c'est des passionnés de soccer et puis ils nous accompagnent depuis les débuts, on les remercie. Messieurs, je vous le disais, troisième segment on va faire une petite vision là sur le match de mercredi soir au Stade Saputo à 19h contre le Forge. Le SCF Montréal joue sa demi-finale du championnat canadien. Puis la question, je vais vous la poser comme ça, brutale. Est-ce que il faut le titre en championnat canadien pour espérer sauver les apparences d'une saison qui part mal? Mais est-ce que ce titre est obligatoire? Je vous montre juste les deux dernières équipes, les quatre dernières équipes qui sont dans le dernier carré. On a un Pacific Vancouver Whitecaps et un CF Montréal Forge qui se jouera donc au Stade Saputo mercredi. Ils ont éliminé Toronto FC qui était le tenant du titre en quart de finale. Voilà,
dans une ligue fermée où il n'y a pas de relégation, faire les séries n'est pas trop difficile, mais n'est pas nécessairement un walk in the park, comme on dit. Gagner une coupe nationale, c'est dépendant qui en parle, gagner une coupe nationale peut être un atout ou un prétexte pour expliquer une saison. Donc, il gagne le championnat canadien. Losada et Renard vont dire en post-mortem qu'ils soient éliminés en première ronde ou face à les playoffs ou qu'ils gagnent et qu'ils perdent en Coupe MLS. Au moins, on a joué pas canadien. On a une belle rivalité contre Toronto. On a battu le champion en titre. On a un trophée, blablabla. Donc, tu as ce genre de discours là. Tu as le champion canadien, tu as une garantie de discours. On a fait le minimum requis pour un club de notre statut. Voilà. Maintenant, pour l'observateur, l'analyste, le média, le fan, pas tous, je pense que le championnat canadien, c'est important. Mais là, je trouve que la MLS, on devrait donner un plus grand poids sur la MLS. C'est que c'est pas nécessairement un must win. Ce qui arrivera. Maintenant, tu pars contre Forge, tu es vraiment dans la chenoute en termes de narrative médiatique. Mais moi, je trouve que c'est juste un prétexte. En 2022, en 2023, hein, moi, je parle pas 2012, 2014, je parle en 2023, pour moi, c'est un bonus. Parce que dans le contexte de lequel ils sont, c'est pas aussi important, je pense, pour moi.
Mais c'est, pour c'est, moi. Un, Non, non, mais c'est important. Il y a Alix qui nous dit que c'est le minimum pour lui. Et tu l'as dit, le narratif veut que là, tu es en demi-finale contre Forge et puis éventuellement, tu vas choper Vancouver ou Pacifique en finale. Donc, le narratif plaide pas forcément en faveur de Montréal si jamais il y a une non-victoire, Nilton.
Tu sais, les coupes nationales, dans certains pays, ça, ça peut devenir comme un plan B dans une saison qui va plus ou moins bien. Là. Mais ici, au Canada, on s'en
Donc, toi,
fout un peu.
tu
On
acceptes
s'en
que
fout.
demain on perde contre Forge, par exemple?
Ah, c'est pas du tout ça qu'il dit, mais le truc, moi je réponds parce que j'ai répondu ben non très rapidement et je dis pourquoi. La finale est le 4 juin,
Six.
c'est finale il y a, ou 6, et peu importe, parce que c'est vraiment c'est en début juin. Si le CF Montréal fait des 5 défaites de suite, 10 défaites de suite, ça ne sauvera rien du tout comme saison. C'est pas parce qu'ils ont gagné la coupe qu'on va tout d'un coup passer à autre chose. Et puis sur le discours post-mortem, je suis d'accord avec toi, sauf oui, tu indiqueras, tu as gagné la coupe du Canada. Sauf que peut-être que tu l'indiqueras avec un coach qui sera pas Losada. Donc ça ne sauvera pas ta saison.
Exactement.
Et à l'inverse, tu es éliminé, mais tu enchaînes un mois d'été extraordinaire avec des 10 victoires sur 13 comme à la Nancy. Coupe du Canada ou pas, tu t'en ficheras complètement parce que Nancy, il s'est fait en Coupe du Canada et personne n'en parle du championnat canadien parce que la
Ok,
saison
alors,
MLS elle était extraordinaire. Maintenant, ce qui pourrait changer, ce qui aurait pu changer, c'est que c'est vrai que en cas de si un peu à l'européenne les coupes venaient en fin de saison, je pense que oui, il y a un peu plus de poids à ce type de questions parce que ça donne un petit baume au cœur et tout, un peu comme ça a été le cas de la saison 2021 où pour une
on est
raison.
Ouais, mais il faut un parcours un peu glorieux. Je veux dire, tu te rends là, c'est parce que tu as
Oh, tu
battu
t'en
qui?
souviens, Balou avait marqué un but à la fin là, contre je sais pas quelle équipe, les pénalties.
On s'en fout un peu parce que
Non, non.
c'est qui pour te rendre là?
Excuse-moi, vas-y.
T'sais, qui tu te bats pour te rendre là? Tandis que si en Coupe de France, il faut que tu termines trois, quatre belles
Non.
performances.
Non.
Ici,
T'as raison. T'as raison
t'as
là-dedans.
éliminé un club semi-amateur, un
Mmh.
autre CPL. Tout ce qui peut arriver, c'est une grosse
Ouais.
déception. Puis ça vient, si ça ne va pas bien en MLS, ça donne encore du poids un peu plus au sentiment négatif.
Mais je remets dans le contexte de 2021. Cette victoire-là avait été justement parce que c'est en fin de saison, genre, comme je pense que ça a été contre Toronto,
Ouais.
si je m'abuse. Ça avait servi dans un narratif où on oublie qu'en 2021, ils ont raté les séries. Donc, avec la défaite face à Orlando. Donc,
Oui.
ça a pu servir à. Ça
Ouais.
a mis la saison sur une note beaucoup plus positive que l'inverse. Comme sauver la saison, c'est trop fort, certes. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure. La finale en question, éventuelle finale, ne viendrait pas en fin de saison. Tu pourrais pas
Mais ça change quoi au
tu
résultat?
pourrais pas te tu pourrais pas te sortir. Ça change qu'au résultat que peut-être même qu'en fin de saison, là, si t'as 10 défaites de suite, c'est même le coach il est pas là. Donc c'est fini, il n'y a pas de
Ouais.
réussite. Donc, que tu gagnes un truc en début juin, genre comme, et que tu as encore 20 matchs dans ton calendrier et que tu fais des résultats en deçà, ta coupe ne te sauvera rien du tout. Si, genre comme dans un cas de figure où ça arrive, un peu comme à l'européenne, où ça peut devenir quelque chose, regardez, on a gagné la coupe. Pourquoi au-delà du prestige même de la coupe, et ça, on ne peut pas l'en vouloir au Canada de ne pas avoir autant de clubs et d'histoires dans sa coupe, mais au-delà du prestige, c'est que ça vient en fin de saison. Et en fin de saison, ben, c'est l'image que tu vas retenir. Tu vas retenir que tes joueurs sont en train de soulever la coupe. Et là, tu as l'image de Piet et Wanyama dans une saison un peu en dents de scie de Wilfried Nancy qui sont en train de soulever la coupe au Stade Saputo. Et ça change ton narratif.
Ouais, mais sauf
Là, ce que
que
je te dis.
je suis d'accord avec toi,
Vas-y.
mais je passe la balle à Rich parce que je le voyais aussi. Le Real ne s'est pas, il n'a pas attendu de dire qu'il avait remporté la Super Coupe d'Europe au mois d'août.
Non, mais j'allais te dire, le meilleur exemple, c'est
Mais...
Manu qui a gagné genre la
Non,
League
mais
Cup,
genre,
genre
alors dans ce
au
cas-là,
mois de je
je
sais pas
comprends pas
quand, on s'en
pourquoi d'un coup
fout.
on occulte les victoires juste parce que c'est pas dans la. Je comprends pas. Reg, est-ce que tu es d'accord avec
Mais c'est le
ce
contexte, là.
Non,
Pas dire.
c'est moi
pardon.
je pense que c'est juste une question de contexte sur comment tu évalues
Exactement.
ta saison. Moi, je pense
Tout
pas
à fait.
qu'une saison doit être évaluée en fonction d'un trophée ou pas, en fait.
Ah,
Déjà,
ok.
y a...
Ouais. Donc toi, tu
Non, mais
penses pas
déjà.
que la saison est sauvée s'il gagne la Coupe du.
Non, pas
Voilà, c'est
nécessairement,
ça.
non.
Voilà.
Non,
Donc,
mais non,
donc
parce
c'est
que
pas parce que ça
voilà.
donne
Non,
une
mais c'est,
raison.
non. On est
Pour
d'accord
toi,
avec,
plein
par
de
rapport à la
raisons.
question de Julien, genre, comme elle n'est pas sauvée parce qu'il gagnerait la Coupe
C'est
championnat
ça,
canadien.
parce
Ok,
que
on est
moi
d'accord.
je pense l'adversité fait en sorte que comme cette coupe, voilà, tu gagnes 2 matchs et demi, tu es en finale. Ok, c'est cool, ils ont sorti
Quatre, là.
Toronto. Ouais, non, non, mais je la minimise pas, parce que c'est vrai que quand j'en avais parlé, Patrice était là, il avait quand même fait des gros yeux en mode on l'a gagné, puis il a raison, c'est une coupe, tu joues quand même contre des clubs MLS à un certain moment dans ce championnat-là. Cependant, c'est vrai par rapport à l'adversité, par rapport au timing aussi, exactement, le moment que ça a lieu, c'est hyper important. On parle d'un truc qui va avoir… Il y a plein de foot qui va jouer après le 6 juin.
Je pense
qu'il
se fait laver durant tout l'été, il va dire « Non, mais j'ai gagné la Coupe du Canada, là, au début. »
D'autres clubs s'en servent. D'autres clubs gagnent des trophées au début de saison.
Mais c'est ça le contexte, Julien, parce que là, tu mets trop… Je comprends, ton discours est logique, c'est tout est pas égal, mais relativement proportionnel. Mais juste que gagner la FA Cup pour, je sais pas moi, pour West Ham, par exemple, et qu'ils se qualifient en Europa League, ça, c'est bien, ça a une valeur. Mais on n'a pas la Milton il y a une semaine ou deux. La valeur de la Ligue des Champions CONCACAF, qu'est-ce qu'elle vaut pour les clubs MLS? Elle vaut quoi? Donc, et ces coupes nationales, plus. En fait, pour le Canada, pour aller en Ligue des Champions CONCACAF, si je ne me trompe pas, moi, que ça a changé, c'est le championnat canadien. C'est le seul chemin pour y aller, je pense. En tout cas, la règle a changé tellement de fois.
La Ligue Cup cette année va donner quelque chose.
Ça va être compliqué, là.
J'ai aucune idée. La Ligue Cup, on en parlera quand elle va commencer. Là, vraiment, là, c'est une paire de manches.
Mais tu vois, c'est drôle, mais moi, je pense que ça a beaucoup plus de poids cette année que le championnat canadien.
Ah
ouais? Je pense que gagner la Ligue Cup avec les équipes mexicaines.
Si on gagne la Ligue Cup, on peut arrêter la MLS, on s'en fout. Là.
Oui.
Ah oui, carrément.
Ah mais oui, non,
oui.
Mais,
ah oui, c'est hyper compliqué gagner la Ligue Cup.
Okay. Wow.
Oui, mais c'est pour dire, tu peux pas comparer West Ham qui va en Europa League en battant, je sais pas, United en Coupe finale FA Cup, puis Montréal qui peut-être battrait genre Pacific FC, genre c'est pas la même chose. S'il avait une valeur énorme sur la Ligue Champion CONCACAF, a.k.a. que la MLS n'avait pas la haine contre le Mexique, qui les bat quasiment à chaque fois en Ligue des Champions. Il y a que Seattle qui l'a fait. Il y a que Seattle qui a brisé le curse, la malédiction. Voilà, ça va les deux ensemble. Et comme disait Sid et Reg, tu perds 10 matchs, on s'en fout. Quoi. Puis même si, je sais pas moi, la Ligue des Champions CONCACAF se jouait cette année avec l'Osada et qu'ils amènent en quart de finale, mais ils se viraient quand même, on va l'oublier. C'est un autre coach qui va prendre sa place pour continuer la Ligue des Champions s'il l'a fait via cette fameuse Coupe canadienne. Donc, vraiment, il ne faut pas te donner une valeur absolue à tout. Là. Je comprends ton point, Julien. Ta question est bonne et légitime, mais c'est pour dire qu'à un moment, genre, pas tous les objectifs ont le même coefficient d'importance. C'est tout. Okay. Le club gagnant, c'est un objectif, mais tu ne peux pas le comparer à faire les séries. En fait, le seul objectif d'un club MLS, c'est faire les séries. Tu n'as rien d'autre. Tu n'es pas relégué, tu n'es pas promu, tu n'as rien d'autre à faire. Littéralement, ta job à temps plein, c'est que faire non, mais les séries. Tu n'as rien d'autre.
D'accord avec vous, mais c'est vrai que. Comme Sid l'a mentionné, dans la première saison de Wilfried Nancy, on se qualifie pas en play-off, mais comme ce match-là arrive en dernier, vraiment à la fin de la saison, ben, on repart sur une note positive. Ça qui est, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur l'instant.
Dans la narrative. Dans la narrative.
Et à l'inverse.
Il a le même parcours.
Non, mais à l'inverse, en 2022, tu connais ta meilleure saison historique ever, et il y a personne qui se rappelle que tu t'es fait taper 4-0 par Toronto en championnat canadien.
Ouais.
C'est très... Non, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que il y a des questions de valeur du trophée. Je suis d'accord avec toi, sauf il y a des questions de timing, super important. Parce que si tu veux faire la comparaison à l'européenne, nous, ici, c'est caduque parce que le timing n'est pas, c'est pas de la fin de saison. Alors, comme une équipe ils ne sont pas relégués, mais bon, ils sont pas faire reléguer. Une équipe comme Nantes. Tu gagnes la Coupe de France, eh ben ouais, mais genre ça change tout, même si tu es dans une saison complètement qui n'a rien à voir. Parce qu'en fin de saison, tu donnes ça à tes partisans. Nous, malheureusement, tu peux gagner cette Coupe-là, et tu n'es même pas là en août. Parce que, bon, là, il y aura une trêve, donc il y aura moins de matchs. Mais tu ne vas pas agiter ce nanan-là en disant, attends, c'était quand même, j'ai quand même. Mais qu'est-ce qu'on
fait après, et ça ne marchera pas à Montréal, en tout cas. Mais ça marche peut-être à Houston Pekka pour Dallas. À Montréal, ça ne marchera pas.
Après, on ne va pas l'en vouloir du prestige de la Coupe. Peut-être que dans 10 ans, quand il y aura peut-être justement comme une meilleure Ligue 1 Ontario, Ligue 1 BC, Ligue 1 Québec, et qu'on va faire des tirages au sort intégral et qu'il y aura encore plus de souvenirs et d'émotions liées à cette Coupe, peut-être qu'on n'aura pas ce discours-là par rapport à. Je pense qu'on va y arriver. Mais bon, pendant trop longtemps, c'était une Coupe à 4 équipes ou 3 équipes. Forcément. Voilà.
Mais juste pour terminer sur une question vraiment oui ou non, parce que vous m'avez titillé. Certainement qu'on va en reparler, comme Sofiane l'a dit, à partir de juillet. Mais si on gagne la Leagues Cup, quoi qu'il advienne, la saison est sauvée, même si on termine dernier.
Si tu gagnes la Leagues Cup, oui, pour moi, oui.
Okay.
Oui, oui. Okay. Si la direction sportive est sérieuse, oui.
Nif. Ah oui.
Ah, oui. Ok.
Complètement.
Oui.
Wow. Reg.
Je pense que ça veut dire non.
Je ne sais pas c'est quoi la Ligue Cup.
Il doit te répondre ça la semaine prochaine. Ouais,
c'est quoi. Oh wow, il y a une ligue, il y a une compétition durant l'été là.
Le nouveau mot FIFA.
On va terminer tranquillement sur la fantaisie. On va terminer tranquillement sur la fantaisie, s'il te plaît. Peux-tu nous dire qui est leader cette semaine, qui a marqué des points, quel joueur fallait-il avoir dans cette équipe?
En parlant de fantasy, j'aimerais juste noter les commentaires d'Alix là. C'est chaud. Je peux dire ça.
Alix était en retard.
Il a dit quoi, Alix?
Alix, là, depuis 9h45, là, ouf.
Mais déjà, je disais que c'est parce qu'à chaque fois, on parlait un peu d'Ofor. Il disait il faut qu'on ait un attaquant qui marque des buts. On avait un topo puis sur les attaquants et je ne l'ai pas vu. Puis il est arrivé après.
Pierre lance avec nous hein, pour Valencia. Pierre est avec nous.
Pour un GoFundMe. Donc on a exactement la même chose. Donc on a quand même encore les 5 premiers qui sont encore invaincus. Très impressionnant. À noter, il y a un petit glitch avec le site. J'ai vu ça hier et aujourd'hui. J'arrive pas à voir qui a fait le plus de points. Donc, je ferai un petit tweet dans la semaine quand ça sera réglé pour confirmer qui a eu le plus de points pour sa petite carte cadeau, La Force du Mal.
Nils, ça serait cool que tu reviennes dans le top 10, Nils.
J'essaye.
cette semaine, on avait un Acosta.
Ah oui.
Acosta, grosse semaine avec un 23 points au total. Donc évidemment, capitaine, on parle de 46 points, c'est énorme. Grosse semaine pour lui. Et puis, bah écoute, on parle de 239 points pour la Dream Team.
239 points.
Ouais, là c'était. Il y a beaucoup de défenseurs.
Deux matchs là.
C'est ça. Moi j'avais Tapia justement en défense, donc ça, il y a eu semaine.
La Dream Team, espère qu'elle soit. La Dream, elle est possible à faire avec le budget ou elle est impossible?
Non, impossible, je pense.
Non. Non. Si je me trompe pas, la Dream Team, c'est vraiment tous ceux qui ont le plus.
Ouais, mais ça doit être faisable.
C'est peut-être faisable.
Tu penses? Ouais, attends, faudrait
d'avoir Mukhtar, Acosta et Kazakh dans la même équipe.
Je pense que c'est compliqué.
Après, ça dépend combien coûte tes
défenseurs. Après, tu complètes avec le banc de Montréal et t'es OK.
Ouais, mais t'auras pas les
défenseurs. Wow. He said that escalated so.
Non, mais moi, pour être honnête. Je connais pas Amundsen et Tapias. Vous connaissez-vous?
Non, mais moi j'avais ta pièce. Tu sais quoi, je vais même te partager pour montrer. C'est vraiment pas mal. Attends, est-ce que je l'ai là 2 secondes? Non, écoute.
Moi j'ai qui bon. Moi j'avais Almada, mais j'ai pas mis capitaine.
Et voilà, regarde mon équipe cette semaine. 128 points j'ai fait.
Eh, pas mal.
Pas mal, hein?
Et tu dois être dans les premiers, non?
Non, mec, j'ai pas. Non, c'est juste cette semaine, j'ai fait 120.
Oui, non, mais cette semaine, là, pour le gagnant de la semaine, t'es pas loin, non?
Ah oui, c'est pour ça. C'est juste, j'ai pas le truc exact, mais je me suis dit que peut-être c'est moi. Donc, ah oui.
Peut-être.
Alors, sur un malentendu, j'avais Almada.
Montre-moi ton bain pour voir, là.
Mon banc, j'avais
Kimball. Voir qu'est-ce que t'as mis là, dans le banc. C'est ça, toi aussi, t'as des joueurs de Montréal dans le banc. Tu ris, mais...
J'en ai un qui est titulaire, en plus, indiscutable. Et en plus, il était sur mon banc quand il a fait son assist à la Ronaldinho, là-haut. J'allais dire au parc, au stade Saputo.
Merci énormément, Moreggio. Donc, tu feras un petit tweet pour le gagnant.
Ça se trouve, c'est moi, en passant. Je vais juste faire un tweet pour dire
que
c'est moi.
Non, mais pour le coup, vraiment, parce que dans les stats que t'as donné la semaine dernière pour les gagnants de la semaine, 128, c'est quand même très haut.
Hein. Oui, mais là, on a un
double. Tu feras une vidéo en train de boire ta bière.
Il y avait 2 matchs. C'est pour ça que j'ai eu autant de points. Ça se trouve, c'est pas assez.
Bon, messieurs, fin de l'audio. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis en audio. Réfléchissez quand même à upgrader hein, sur le tiers suivant, parce que là, vous allez rater quand même des franches rigolades. Vous avez raté la première demi-heure et vous allez certainement rater le prochain quart d'heure. Donc, réfléchissez un peu à ce que ça peut coûter pour vous, finalement, de passer sur l'échelon supérieur. Donc, merci, à la semaine prochaine pour l'audio et puis pour la vidéo. J'ai bien sûr quelques questions en stock grâce à Max de Dans les coulisses. La première, qui reposait ce mercredi